Voilà, l'enregistrement a démarré. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue sur cette septième édition de Radio Pléiade. Et nous sommes 43 personnes. Donc, on est content d'être avec vous ce soir. Alors, donc, vous vous souvenez, hein, c'est un rendez-vous hebdomadaire tous les lundis à 21h. Le rendez-vous du lundi qui réveille le Jedi qui est en vous. Et bah, peut-être que quand on s'approchera de façon dramatique de l'événement, peut-être qu'on fera même des rendez-vous un petit peu plus fréquents, parce que ça pourrait être intéressant de rentrer en contact justement quand tout va s'accélérer, que la divulgation va s'accélérer et qu'on va sentir les choses approcher. Voilà, on verra. En tout cas, voilà, c'est aussi un petit peu l'idée de ce canal, c'est de prendre l'habitude de se rencontrer régulièrement. Parce que, on va avoir besoin de se parler. Voilà, je le vois bien comme ça dans les semaines et dans les mois qui viennent, et même dès maintenant, pour échanger pas mal de choses. Alors, aujourd'hui, on va parler primo-arrivant dans la matrice. Alors, je vous garantis, on ne va pas parler immobilier, on ne va pas parler de primo-accédant. Il ne s'agit pas de cela. Alors, primo-arrivant, donc je sais pas, je ne connais pas le background de toutes les personnes qui nous écoute ce soir, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire bah, une personne qui vient d'arriver, toute fraîchement arrivée dans la matrice. La matrice, c'est quoi? C'est notre vision du monde d'une planète prison et non pas d'une planète école dans laquelle les âmes sont enfermées, sont condamnées à se réincarner au service des contrôleurs de la matrice. Mais il se trouve que cette matrice est alimentée régulièrement par des âmes qui viennent de l'extérieur. Et des âmes qui viennent de l'extérieur, elles peuvent avoir une vision un petit peu différente que celle que nous avons, nous qui sommes là, enfin, en tout cas, moi, je parle pour moi, depuis pas mal de vies, et on s'en serait bien passé. Mais en même temps, voilà, on a une tâche à accomplir, et c'est pour ça qu'on est là. Donc ce soir, on a invité Romain. Qui va nous parler justement de sa condition de primo arrivant dans la matrice. Donc bonjour Romain.
Salut Hervé, bonsoir à tous.
Donc voilà, bah on est content de t'avoir avec nous parce que bah, les participants vont découvrir. Tu as beaucoup de choses très très intéressantes à nous dire. Et en fait, on a eu pour la petite anecdote. Comment ça s'est fait là? Parce que ça s'improvise un petit peu au fil du lot, hein, les radios Pléiades d'une semaine sur l'autre, en fonction on va dire, des synchronicités. Et on a fait une séance sur les implants avec Romain mercredi dernier, sur la dissolution des implants, donc encore un sujet un petit peu relou pour les personnes qui ne connaissent pas, mais je vous invite à aller voir, c'est très intéressant, il y a beaucoup d'explications qui sont données lors de cette séance, donc sur la chaîne Hervé Gaïa. Et en fait, Romain a commencé de nous parler justement de ces vaisseaux là-haut. Et puis, enfin, moi et une autre personne, co-animatrice Lise, on a eu une petite remontée émotionnelle. Au moment où Romain parlait, on s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il nous a envoyé une image télépathique tellement claire et tellement nette qu'on s'est retrouvés presque quasiment avec nos amis les Galactiques. Et on s'est dit, waouh, ça vaudrait le coup de partager ça avec les auditeurs sur un Radio Pléiade. Donc voilà, c'est le but d'aujourd'hui. Alors, j'ai terminé mon introduction. Et alors, juste pour mon humeur du jour, je vais vous donner mon humeur du jour. En fait, j'ai une pensée émue pour Thierry Casasnovas. Je ne sais pas si je pense que beaucoup le connaissent. En fait, il a fait une dernière vidéo pour dire qu'il se retirait justement de YouTube. Donc, c'est une personne qui a fait la révolution par le jus de carotte. Et ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas ironique, ce n'est pas pour le déprécier. Il le dit lui-même d'ailleurs. En fait, c'est une personne qui fait la promotion du bien-être sur YouTube depuis 10 ans en réalité. Il a accumulé une base d'abonnés sur YouTube de 540 000, je crois. Et en fait, bah, il fait tellement du bon travail, il participe tellement à la montée des énergies et à la montée des vibrations des personnes justement bah, qui prennent soin d'eux, qui boivent du jus de carotte ou du jus de légumes ou autre chose, bah, qu'il a été harcelé par les médias mainstream. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est obligé justement d'abandonner son exposition. Donc voilà, donc c'est un grand travailleur de lumière que je voulais saluer, Thierry Casasnovas. Je pense que beaucoup le connaissent. Et comme quoi, on peut faire la révolution autrement qu'en faisant des méditations ou en faisant des séances de dissolution d'implants. On peut le faire aussi en faisant la promotion des extracteurs de jus et bien d'autres choses encore. Et voilà, donc c'était mon humeur du jour. J'ai une pensée émue pour lui parce qu'il a vraiment fait un super boulot. Et de toute façon, l'ombre, elle est cuite. Et ce n'est pas le fait de l'avoir harcelé qui va changer quelque chose au résultat final. Allez, je vous laisse la parole pour votre petite humeur du jour avant de rentrer dans le vif du sujet.
Hervé, si tu me permets, je vais compléter parce que l'information que tu donnes n'est pas tout à fait exacte concernant notre ami. En fait, il a eu une plainte auprès de la Miviludes, comme quoi il était gourou d'une secte. Et faut savoir qu'il a eu des descentes de police chez lui et que s'il arrête tout aujourd'hui, c'est parce que il a tout perdu, y compris sa femme, sa famille. Voilà, donc c'est beaucoup plus grave que ça en a l'air. Voilà, il ne le dit pas dans ses vidéos, mais la vérité, c'est ça.
D'accord, effectivement. Moi, j'ai regardé sa vidéo hier, en fait, en réalité. Effectivement, il donne pas le détail, mais on sent qu'il est très ému de nous, enfin, de quitter le web. Par contre, je sais, oui, je sais qu'il avait eu des déboires avec la Miviludes. Mais ce qui est complètement, enfin, ce qui est outrancier quand on prône le bien-être et la santé par l'alimentation, la qualité de l'eau, etc., de se faire attaquer par la Miviludes. Enfin voilà. Mais en tout cas, merci pour la précision.
Excuse-moi, hein, de... Voilà, non, mais ce sont des attaques en règle du Deep State, comme ils savent très bien les faire. Dès qu'il y a quelqu'un qui les gêne, ils savent mettre le paquet pour détruire la personne, soit financièrement, soit moralement, soit par les deux. Et en l'occurrence, là, c'est ce qui s'est passé. Là, actuellement, je sais qu'il y a aussi comme information, après, l'IHU de Marseille qui est en perquisition depuis 9 h ce matin parce qu'ils ont décidé d'avoir la peau du professeur Raoul. Voilà, là, on sent qu'ils sont en panique et qu'ils essayent par tous les biais de faire taire tout le monde. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres informations comme ça. Voilà, donc il faut vraiment garder les vibrations hautes pour te rejoindre et rebondir sur le sujet de ce soir, afin de pouvoir justement définitivement combattre l'ombre.
Ouais, tout à fait. Alors justement, ça me donne envie de préciser une petite chose encore par rapport à Thierry. En réalité, donc vous voyez, ils essayent de descendre Thierry parce que, en fait, il a la tête qui dépasse parce qu'il a beaucoup d'abonnés. C'est la plus grosse chaîne francophone sur le bien-être. Bon, voilà, il y a aussi le professeur Raoult. Mais en réalité, on est tellement nombreux que même s'ils tapent sur les têtes qui dépassent, de toute façon, ils arriveront jamais à faire face à ce raz-de-marée. Et pour voir le verre justement à moitié plein, même plus qu'à moitié plein, en réalité, c'est juste la preuve de leur désespoir. Tout ce qui se passe en fait actuellement avec ces personnages. Enfin voilà, bien, bref, c'était une longue introduction. Alors ouais, Pierre, une humeur du jour sinon, ou les autres, avant de rentrer dans le vif du sujet?
L'humeur du jour en ce qui me concerne, c'est rester unis, regroupez-vous, cessez l'individualisme. Voilà.
Super, merci.
Moi, j'ajouterais effectivement qu'on doit, pareil, rester unis et faire attention aux attaques qui essaient de nous diviser. Je ressens qu'il y a de plus en plus d'attaques qui essayent de saper les énergies des gens. Et comme on vit une période extrêmement décisive, il faut vraiment rester unis. Et éviter de trop douter non plus, il faut rester centré, c'est le plus important, jusqu'au bout.
Et tu vas nous aider justement ce soir à ne plus douter, mais
Ben,
on va y
j'espère,
revenir.
ça me fait très plaisir en tout cas.
Un autre co-animateur souhaite s'exprimer sur l'humeur du jour?
Ouais, moi je dirais avec tout ça, tout ce qui vient d'être dit, je raisonne complètement et j'aurais envie de continuer en disant, voilà, gardons notre humour et notre légèreté dans ces moments-là. Et c'est dans ces moments aussi où on rigole, où on passe du bon temps, qu'on voit qu'on est vraiment soudés les uns avec les autres, quoi.
Yes, donc c'était Gwenaëlle qui parlait de la chambre à taquillon en Bretagne.
Enfin, oui, c'est vrai, je ne me suis même pas présentée, pardon.
Un autre?
Moi non.
Allez, on enchaîne.
Bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Cindy. Je ne sais pas si on m'entend bien, Hervé.
On t'entend bien,
Ah,
parfait.
super. On a réglé les problèmes de son. Donc, moi, je représente le réseau français francophone de Prepare for Change, préparez-vous au changement. Je suis aussi en lien avec la civilisation ancienne d'Hyperborée. Et après quelques semaines où j'étais un peu chaos suite à des attaques énergétiques et des problèmes de santé, je suis à nouveau de retour quasiment en forme et prête à en découdre avec les négatifs. Voilà, donc restons unis, aidons-nous, soyons solidaires et tous parcourons tous la dernière ligne droite avant la ligne d'arrivée. C'est toujours la plus difficile, la dernière ligne droite d'une course avant la ligne d'arrivée. Donc, il ne faut pas s'essouffler. Voilà.
Et un de ces jours, il faudra que tu nous parles justement un petit peu plus en détail de l'hyperborée et aussi du réseau Prepare for Change. Je suis sûr que ça peut intéresser pas mal de monde. Mais bon, bah, ce ne sera pas pour ce soir.
Non, ce sera pour une autre émission. Et peut-être avec ma connexion, qui sait.
Intéressant. Une autre personne ? 1, 2, 3.
Bonjour, c'est donc Sandrine. Vous m'entendez ?
Ouais, très bien.
Oui, donc Sandrine, méditante au niveau des méditations mondiales. Je suis Cobra depuis fort longtemps déjà. Humeur du jour, on va dire, entre électrique et sereine. Électrique parce que beaucoup d'attaques en ce moment sur un peu tous les plans, mais extrêmement sereine parce que je sais quelle sera l'issue de toute cette bataille finale, donc en notre faveur à tous pour la libération. Voilà.
Super, merci beaucoup Sandrine. Bon, non, Eric, ouais, un petit mot peut-être ?
Oui, bonsoir à tous et à toutes. Eh bien, il fait très beau, profitez-en. Comme disait Gwen, il faut s'amuser, il faut rester heureux, soyons joyeux, rigolons. Ça emmerde bien l'ombre. Donc, c'est une bonne médecine de rigoler, de s'amuser, voilà. Donc, beaucoup de bonheur et de paix à tous et à toutes ce soir. Et je te redonne le micro, Alexandre.
Ok, super. Merci, Eric. Donc, Eric étant le gardien de la chambre à tachyon du Poitou, la deuxième chambre à tachyon qui a été ouverte en France après celle de Gwen que vous avez entendue tout à l'heure. Donc, voilà. Et d'ailleurs, il y a eu une vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue, on vous encourage à aller la voir, qui a été faite par Jonathan d'Exoportail avec Gwenaël et Eric sur les chambres à tachyon. Une vidéo de 45 minutes qui est très, très intéressante. Allez la voir. Voilà. Donc, allons-y. On va, Romain, je te donne la parole. Et pour commencer, j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce donc qu'un primo arrivant dans la matrice ?
Alors, un primo arrivant, eh bien, c'est une semence d'étoiles qui s'est incarnée de son plein gré récemment dans la quarantaine matricielle. Donc, moi, je ne fais pas partie de ceux qui, malheureusement, se sont fait avoir, qui ont été pris dans les mailles des filets sombres et qui ont été forcés de s'incarner ici. Moi, je suis rentré de mon plein gré en 1994, c'est-à-dire la date de ma naissance. Exactement.
Et alors, comment tu peux être sûr de ça, en réalité ?
Alors, j'ai de nombreux indices. Après, ça a été compliqué à recouper. Enfin, ma vie est longue. J'ai beau avoir que 27 ans. Effectivement, il m'est arrivé beaucoup de choses. Alors, déjà, quand je suis née, effectivement, toute mon enfance a été... quand je suis née, déjà, j'ai été torturée. Mais ça, je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça dévie trop du sujet. Je dirais effectivement que j'avais une immense torture. Parce que lorsque je suis rentré dans la quarantaine, effectivement, des archontes m'ont littéralement dézingué la gueule. Donc ça, j'en garde un souvenir extrêmement traumatique. Et ce souvenir, en fait, il a presque un peu mis à mal la programmation amnésique des implants, déjà. Mais quand j'étais enfant, effectivement, j'étais très, très nostalgique. J'étais en fait nostalgique d'être, de lumière et d'amour, d'un paradis perdu. Et j'arrivais, en fait, j'avais du mal à comprendre, effectivement, qu'est-ce qui se passait. C'était comme si j'étais tombé d'un paradis et j'étais atterri dans un camp de concentration absolument horrible. Et ça, j'en avais parfaitement conscience. Même quand j'étais à la maternelle, je sentais bien qu'il y avait des implants qui me faisaient du mal. Je sentais bien que je devais rentrer dans le moule matriciel. Mais il y avait encore beaucoup de racines qui me reliaient au monde d'avant. Voilà. Et donc, effectivement, quand j'étais un enfant vraiment... Ouais, surtout quand, jusqu'à l'âge de 5-6 ans, un enfant triste, quoi. Triste, triste, triste. C'est une incompréhension d'être presque déchiré, d'être séparé des siens. C'est d'une violence extrême, inouïe. Donc, oui. Et puis surtout, j'avais toujours l'impression que le temps était bizarre dans ce monde. C'est-à-dire que le temps est extrêmement lent. On est perdu. On n'arrive pas à manifester. Je crois, en fait, que j'étais nostalgique aussi d'un ancien écoulement temporel propre dimension d'où je venais. Ça, j'en ai toujours été persuadée, mais à 100%. Et donc, du coup, chose étrange, effectivement, mais Mes parents, lorsqu'ils m'offraient des cadeaux à Noël, ils avaient une valeur extrêmement importante pour moi, vu que ce n'était pas un simple caprice pour avoir des jouets. C'est qu'en fait, quand je jouais, par exemple, quand je jouais au Capelin dans ma chambre, quand je faisais même des mises en scène dans ma chambre, tout cela, en fait, avait une valeur spirituelle dans le sens où, par mon imagination, j'arrivais à me reconnecter aux dimensions que j'avais perdues en m'incarnant. Et ça, j'en étais parfaitement conscient. L'autre chose aussi que je savais pertinemment, c'est que mes parents biologiques, même si je les aime, j'ai toujours su dans mon âme que ce n'était pas ma vraie famille. Voilà, je les aime, hein, j'ai été élevé dans l'amour, il n'y a eu aucun problème, mais je sais que ce n'est pas ma vraie famille, ce ne sont pas vraiment les miens. Les miens, ils sont ailleurs. Ça, c'est une certitude que j'ai dans le cœur et que j'ai toujours eue. En fait, que je sois enfant ou adolescent, ça, c'était sûr. Voilà.
Alors, c'est qui ta vraie famille, justement? Vas-y, dis-nous-en un peu plus, si tu peux.
Alors, ma vraie famille, effectivement, je suis pléiadien au niveau de l'âme avec une connexion avec Antarès. Voilà, et effectivement, la connexion avec mon âme jumelle est très forte, vu qu'elle est reliée à ma mission d'âme. En fait, ma mission d'âme, c'est d'ancrer les énergies du féminin sacré, et ces énergies qui sont en moi, je les dois en grande partie par l'amour inconditionnel que je porte aux miens, c'est-à-dire aux êtres que j'ai perdus et qui sont à bord des vaisseaux, à savoir mon âme jumelle, mes âmes sœurs, ma famille galactique, qui sont restées là-bas.
Et que tu peux justement détailler un petit peu, là, je pense que c'est un sujet qui intéresse aussi beaucoup les auditeurs, cette notion de connexion avec la famille d'âme ou même avec l'âme jumelle. Je pense qu'on aimerait, comment dire, on aimerait, ouais, que tu expliques un petit peu mieux comment tu ressens ça et comment tu sais que c'est cette connexion en réalité.
Alors, c'est une longue histoire, je vais essayer d'être concis pour ne pas prendre trop de temps, mais je dirais en fait que c'est mon éveil qui m'a amené à monter, monter, monter mes vibrations. Je dirais déjà que la musique a joué un rôle extrêmement important dans ma vie. C'est ce qui m'a permis de durer, même dans les moments les plus difficiles. À chaque fois, la musique a donné un sens et j'ai utilisé l'art musical comme ascenseur vibratoire. En fait, je l'ai tout le temps fait, je l'ai fait naturellement. Et presque, je pourrais remercier la source ou Dieu de m'avoir donné un don dès le départ, vu que je savais improviser au piano avant même de prendre des cours. Donc, j'ai toujours considéré le piano comme un ascenseur vibratoire qui me permettait de me connecter à mes dimensions intérieures. Donc, bon, après, voilà, j'ai fait l'école de la matrice, j'ai fait des études musicales, de piano, de composition, etc. Et puis, donc, vient effectivement l'année de 2015, où là, effectivement, voilà, je sens que ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai besoin d'une transcendance, d'une compréhension. Et au fur et à mesure, à force de chercher sur Internet, à force de cheminer, bah, quelque part, ça m'amène sur le sujet galactique. Alors, au départ, c'était avec Éric Julien, ensuite, après, c'est venu sur d'autres informateurs, puis Cobra est aussi arrivé. Bon, bref. Et en parallèle de ça, effectivement, alors je crois que c'est arrivé en janvier 2017. Alors, c'est un accident, hein. Je précise que je n'ai jamais voulu avoir aucun contact. Je n'ai jamais cherché à avoir de contact. Le contact que j'ai eu avec cet être-là était un accident. Moi-même, je l'ignorais, hein. Je préfère préciser. À force d'élever, d'élever, d'élever mes vibrations, il y a un moment, j'ai senti en fait des décharges de lumière dans mon corps. Je ne savais pas ce qui se passait. C'était plus fort que moi, comme une sorte d'addiction. En fait, j'ai réussi à avoir un contact en dehors du voile simplement en élevant mes vibrations, en écoutant de la musique. Et en écoutant de la musique, je me faisais des scénarios comme si j'arrivais à me connecter à des êtres des étoiles, en fait, en arrivant à avoir une expansion de conscience au-delà du voile. Et puis, ce qui est arrivé est arrivé. J'ai eu un contact. Alors, interdimensionnel, parce que pas physique évidemment, mais interdimensionnel extrêmement clair. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses qui sont passées. Déjà, j'ai mis un an à m'en rendre compte, d'accord, lorsque l'aide de lumière m'a pas dit ça. Moi, j'en étais pas conscient. Et en plus, j'étais pas prêt. J'étais dans le déni parce que cette aide me paraissait tellement fabuleux que je pouvais pas concevoir qu'elle était mon âme jumelle. Donc, déjà, il y a le déni, il y a la programmation. En fait, ça a révélé ma propre programmation. Ensuite, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que j'avais le dos qui vibrait. Alors, chose étrange, les gens pourraient se dire, mais pourquoi on a le dos qui vibre? Effectivement, c'est la Kundalini. Lorsque vous rencontrez votre âme jumelle, vous avez la Kundalini, en fait, qui veut sortir par le chakra couronne. Donc, du coup, chez moi, elle est bloquée au niveau du dos. Je pense que ça vibre. Mon dos vibre. Et surtout, j'ai eu des synchronicités extrêmement fortes avec cet être. Mais quand je dis forte, c'est qu'il n'y a aucun doute possible. C'est-à-dire, j'avais le chakra du cœur, mais c'était comme une bombe nucléaire d'amour qui explosait en moi. Et j'ai eu de très fortes synchronicités où j'ai pu avoir quelques messages qui m'ont été délivrés. Voilà. Mais effectivement, j'ai mis un an à m'en rendre compte parce que j'étais dans le déni. Je voulais pas. Enfin, tout ça me paraissait tellement égoïste de me dire que j'étais l'âme jumelle de cet être que j'ai pas osé me l'avouer à moi-même. C'est que un an plus tard que j'ai su. Et j'ai su aussi, alors ça c'est triste, mais c'est toujours pareil, hein, l'obscurité se trahit toujours lorsqu'elle fait du mal. J'ai eu des attaques monstrueuses. Monstrueuse contre moi, des ondes qui m'ont détruit le cerveau, qui ont détruit ma vie, enfin, ça a été très très compliqué à la suite de ça. Donc voilà, c'est toujours très intéressant de parler de l'âme jumelle, mais je préfère prévenir aux gens effectivement que c'était un accident et que tant que l'événement n'est pas déclenché, vous encourez un très très grave risque. Qui dit en fait, rencontrer son âme jumelle au-delà du voile, c'est mettre en danger la quarantaine. Donc vous aurez forcément des attaques qui viendront vous pourrir la vie et vous faire du mal. Voilà.
Alors tu dis plein plein de choses qui peuvent susciter plein plein de questions. Moi je commence d'entrée de jeu avant de donner la parole aux auditeurs. Alors déjà tu nous as parlé de messages donc avec cette rencontre. Donc moi j'aimerais bien, si c'est possible, si tu veux bien en parler avec nous, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Et tu nous dis ça m'a détruit le cerveau, mais on n'a pas l'impression que tu es une personne qui a le cerveau détruit, bien au contraire. Pourquoi tu dis cela? En fait, enfin, tu as été victime de ce qu'on appelle d'attaques d'armes à énergie dirigée, peut-être?
Alors, pour la première question, effectivement, j'ai eu plusieurs messages qui m'ont été délivrés. Déjà, le soir où cet être, où elle est arrivée, il m'est arrivé un truc vraiment. En fait, je savais qu'il y avait un être de lumière qui était là, mais je ne savais pas que c'était mon âme jumelle. Donc, c'était le soir. D'ailleurs, je regardais un film Disney sur mon ordinateur dans mon logement étudiant parisien. Et donc, je vais me coucher. Et je sais qu'il y a une présence. Je ne sais pas comment l'expliquer. Bon, bah, je vais me coucher. Et alors là, je le dis, hein, je suis vraiment sincère, je parle sur l'honneur. Mon corps a été scanné. Mon corps a été scanné par des ondes positives qui faisaient vibrer mon corps, comme si mon corps était un instrument de musique et que chaque organe vibrait. Je pense en fait c'était un scanner éthérique qui s'opérait. Et ensuite, les jours passent, je suis émotionnellement très troublé. Et bon, j'allais mal à cette époque-là parce que, en fait, j'avais déjà des attaques, j'avais déjà des entités qui me couraient autour et qui foutaient la merde. Enfin, c'était assez compliqué, plus des études, plus. Bon. Et il se trouve qu'un jour, bon, je vais faire mes courses au supermarché, chose banale. Et là, je rentre dans le supermarché. Je rentre et là, j'ai un flash de lumière comme un pilier qui se met sur moi. À peine j'ai passé le seuil du supermarché, j'ai un flash immense de lumière. Je suis presque paralysé tellement l'amour vient sur moi. Et là, j'entends à l'intérieur de mon cœur quelqu'un me dire, je suis là. Je suis là, tout va bien. Et chose extraordinaire, je le dis aux gens, peut-être certains vont pas me croire, mais tant pis. La musique qu'il y avait dans le supermarché, c'était la même que j'écoutais dans mon iPad lorsque j'élevais mes vibrations. C'était la même. Une synchronicité, un moment dans le présent, mais inouï, quoi. Inouï. J'aurais aimé que ça dure, mais une éternité. Comme si tout d'un coup, j'avais quelque chose qui me rassurait, qui m'apaisait, qui me. Oh! Un amour inconditionnel sans nom, quoi. Incroyable. Donc ça a été le premier message. Je suis là, dans le sens, peut-être je pense qu'elle voyait que j'étais en détresse, quoi. J'allais mal, j'allais vraiment mal. Donc je pense qu'elle voulait me rassurer pour me dire, mais je suis là. Je suis là et je t'aime, je suis bien présente. Le deuxième message, ça s'est passé sur ma télé. Mais alors là, pareil, synchronicité, extrêmement forte dans le moment présent. Et alors là, alors je sais pas, je pense qu'elle l'a su par télépathie. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, c'est parce que c'est ma vie privée. À un moment, je zappe sur une chaîne, etc. Et là, j'entends toute ma vie à travers les dialogues défiler. C'est comme si, en fait, l'être avait su tous mes secrets, tous mes problèmes. Elle avait lu dans mon cœur, elle avait lu dans mes pensées. Et là, je me retrouve à nu, quoi. Je suis scotché. Mais scotché. Et pareil, un très fort moment présent, comme si on voulait me délivrer un message clair. En fait, je pense que l'être voulait m'aider, mais. Moi, j'étais pas prêt, et puis aussi j'avais honte, en fait, mais je me suis comporté comme un con, mais voilà, je me sentais comme une merde. On fait tous des erreurs, et bon, voilà. Donc voilà pour les messages, puis après, j'en ai eu d'autres aussi. Mais ce qui s'est passé, alors là, je termine juste sur ça, Hervé, c'est que, en fait, j'ai fait une très grosse bêtise durant ce contact, et je l'ai su que plus tard. En fait, ce qui s'est passé, ce qui a énormément énervé les entités négatives, c'est que je sentais comme un parfum fabuleux dans mon corps. Et ce qui s'est passé, c'est que j'opérais déjà une fusion hiérogamique. Autrement dit, ça peut sembler fou, mais même à distance, il y avait déjà un début de hiérogamie énergétique qui s'opérait avec cet être. C'est comme si une partie de moi commençait à fusionner carrément. Et c'était divin, quoi. C'était incroyable. Donc ça, je m'en souviens. Ça a duré quoi, 15 jours. Et puis après, ça s'est coupé parce que ça, les entités sont venues et toute la connexion s'est rompue d'un seul coup. D'un seul coup
Est-ce que
avec le
tu peux
choc.
préciser pour nos auditeurs qu'est-ce que ça veut dire la fusion hirogamique?
C'est tout simplement en fait les corps subtils qui commencent à fusionner entre les deux âmes jumelles. Pour moi, c'était absolument incroyable. Et puis surtout, bon, pour être opportuniste, moi, ça m'intéressait énormément parce que cette énergie est tellement puissante que en termes artistiques, ça équivaut à de l'or, quoi. C'est le jackpot cosmique. Même pour avoir de l'inspiration pour composer. Donc même dans des choses bassement matricielles, moi, ça m'intéressait énormément. J'avais l'impression que mes capacités étaient décuplées, quoi. Mais décuplées, je n'en revenais pas. Même en improvisant, même en jouant du piano, c'était absolument incroyable. Incroyable, c'est fascinant. Fascinant.
Parce
En
qu'en
fait, c'est
fait,
pouvoir.
tu es, tu, tu, pour les auditeurs, Romain est musicien, vous l'avez sans doute compris, donc il est pianiste, mais il est également compositeur.
Absolument. Et moi, j'avais l'impression que c'était le nirvana, quoi. J'avais les clés de l'algorithme divin musical à travers cette connexion. Je sais que ça peut paraître fou, mais je crois que la puissance de l'amour inconditionnel est absolument incroyable. Je n'avais jamais vécu ça. Et je pense que si je me suis aussi mal comporté, parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait, je débarquais, je savais pas. Voilà, je l'ai su un an plus tard pour vraiment vérifier, pour avoir du recul sur tout ça. Et voilà comment j'ai su. Et tu m'as posé une deuxième question, pardon, tu m'avais dit quelque
Non,
chose.
parce que tu disais que ça t'avait détruit le cerveau, en fait. Donc, tu as
Ah oui.
ressenti des attaques violentes, mais est-ce que tu peux en parler aussi?
Ouais. Oui, effectivement, en fait, c'est plus des attaques scalaires et éthériques qui m'ont fait souffrir absolument. Enfin, ça a été abominable. Donc, je me sens littéralement oppressée. Et surtout, là où j'ai le plus souffert, là où j'ai vraiment failli, j'ai eu peur, en fait, de caner carrément, c'est qu'ils torturent par la privation de sommeil. Donc, il y a des moments, ça a été des moments extrêmement noirs. J'ai cru que j'allais arrêter mes études. Mon sommeil ne fonctionnait plus. J'ai été obligée de prendre des médicaments. J'ai toujours les ondes. Hein. De toute façon, ça, je le sais. À cause de ce contact, je serai punie jusqu'à l'événement. Parce que j'ai mis en péril la quarantaine, mais ça, je ne le savais pas. J'ignorais tout. Mais effectivement, la torture par ondes scalaires et éthériques est terrible. Terrible, c'est affreux. Et même une fois, les attaques étaient si horribles qu'au bout d'un moment, vous avez des symptômes grippaux qui apparaissent. Et puis surtout, en fait, ça se manifeste sous des formes d'ultrasons, à gogo, à gogo, à gogo. Donc j'ai tout le visage qui craque, j'ai la mâchoire qui craque, mon corps extrêmement fragilisé. Et pendant plusieurs mois, ça a été vraiment très très dur après le contact. Hein. Ça a été terrible, un déferlement de haine, un déchaînement. Par moments, quand j'allais en cours, j'avais peur de m'écrouler en cours. Parce que quand vous torturez quelqu'un avec ce genre d'armes, au bout d'un moment, quand la personne ne dort plus, quand vous pouvez vous effondrer. Mais dans la rue, quoi, carrément. Moi, j'avais peur que les gens me jugent, j'avais peur que mes camarades étudiants me disent, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu te drogues? Les gens voyaient bien que j'étais défiguré. Mon visage était défiguré. Et ça a été très dur. J'ai vécu ça tout seul. Mon père comprenait de loin, mais ça a été compliqué. Voilà.
Moi, je ne sais pas vous, mais bon, je sais qu'il va y avoir beaucoup de questions, je pense, ce soir. Mais en fait, je ne sais pas si vous sentez l'authenticité de Romain. Et enfin, moi, j'ai presque, on va dire, les larmes qui me viennent aux yeux quand il raconte son histoire. Je sais
J'espère
pas.
que je dis pas trop de choses négatives, mais je parle avec mon
Non,
cœur, je
mais.
parle à ce que j'ai vécu, voilà.
Non, mais en fait, non, mais voilà, enfin, je veux dire, enfin, le groupe, c'est la spécificité du groupe aussi, c'est de ne pas être dans le déni de l'ombre et de la regarder en face et dans les yeux. Donc, c'est justement, je pense que c'est important de faire ce travail-là. Tout le monde ne peut pas le faire, mais certains doivent le faire. Moi, j'ai quand même une question quelque part. Alors, j'ai une petite idée, mais il faut que je pose cette question. Tu nous
Je
dis,
t'écoute.
Ouais, tu nous dis donc rencontrer sa flamme jumelle et fusionner avec, ça met en péril la matrice. Moi, je suis d'accord avec ce concept. Je sais que beaucoup de gens ne s'y retrouveraient pas parce que il existe un certain nombre de personnes sur la planète qui sont convaincues d'avoir trouvé leur flamme jumelle et de vivre avec. Bon, mais ça, c'est un autre sujet justement. On va dériver sur les familles d'âmes ou les reconnaissances d'âmes. On en reparlera tout à
Super,
l'heure.
super.
Mais moi, la question, c'est pourquoi faire entrer dans la matrice une personne qui peut mettre en péril la matrice. Quelle réponse peux-tu apporter à cette question?
Alors, c'est une excellente question. Tu veux dire, en fait, pourquoi mon âme jumelle s'est approchée de moi
Pourquoi déjà faire rentrer un primo arrivant et en plus qui a une connexion si forte avec son âme jumelle? Enfin, je sais pas, ils ont raté les traumatismes initiaux pour te déconnecter de cette âme jumelle. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est mal passé parce que là, ils ont foiré clairement, parce que s'ils mettent en péril la matrice en faisant rentrer une âme, il y a un truc qui déconne dans leur process.
Alors, tu fais bien de me le dire. Effectivement, ça fait depuis 27 ans que je tente de comprendre pourquoi des archontes m'ont torturé dans le ventre de ma mère. Je n'ai pas de réponse. Je pense que je les aurai après. Je pense qu'en fait, je me suis incarné en 1994 parce qu'au départ, on savait que on pensait réellement que l'événement allait se produire en 1995. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque j'ai rencontré interdimensionnellement mon âme jumelle énergétiquement, en fait, ça m'a donné une énorme clé pour retrouver toutes les âmes sœurs, vu qu'en fait la sommation des âmes sœurs, elle recrée toutes ensemble en fait le spectre vibratoire de l'âme jumelle. Autrement dit, lorsque vous rencontrez votre âme jumelle, vous pouvez démasquer très facilement les âmes sœurs. Eh bien, lorsque j'ai vu les âmes sœurs, effectivement, je me suis rendu compte qu'elles avaient quasiment le même âge que moi. Certains sont incarnés en 89, d'autres en 92, d'autres en 94, comme moi. Et je pense qu'on est tous arrivés à ce moment-là parce que on voulait participer à la masse critique liée à l'ascension. Je pense que nous, on est liés à l'ascension. Donc c'est pour ça qu'on s'est incarné un peu précipitamment à ce moment-là. Sauf que effectivement, ça a été un désastre. Ça a été un désastre terrible. Alors quand même, je nuance mes propos. J'ai vécu l'horreur lorsque j'ai été incarné, lorsque je me suis incarné avec des tortures horribles. Mais parce que aussi, je suis porteur d'une connexion à l'énergie du féminin sacré. Toutes les semences d'étoiles n'ont pas été torturées lorsqu'elles sont incarnées au début des années 90, hein, attention. Mais quand même, on a été beaucoup. Et il y a des membres de ma famille d'âme, en fait, qui ont la même programmation que moi. Bien sûr, ils savent pas d'où viennent ces traumas, ils savent pas d'où viennent ces souffrances. Mais je le vois et je le sais, en fait. J'ai l'intime conviction qu'ils ont subi les mêmes tortures que moi. Donc voilà, en fait, on s'est incarné parce qu'on pensait, grande erreur, que l'événement allait arriver en 1995, mais...
C'est pas une si grande erreur que ça. Alors justement, je vais redonner des informations de contexte pour nos auditeurs. En fait, en 1995, la Confédération Galactique, en fait, était arrivée à un point où justement, elle était dans la possibilité de réaliser un premier contact avec la population à la surface de cette planète. Et les contrôleurs de la matrice, donc les archontes et toutes leurs pyramides d'esclavage en dessous, en fait, ont réagi, ils ont pris conscience de ça et ils ont réagi très, très brutalement. En fait, ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, il y avait des forces sombres à d'autres endroits dans la galaxie et notamment au niveau
système de Rigel.
Le système de Rigel, merci Romain. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont concentré toute leur force sur la planète Terre. Et il y a eu à ce moment-là ce qu'on appelle justement en 1996, donc c'est l'année suivante, l'invasion des Archontes. Toutes les forces sombres se sont rassemblées sur la planète Terre pour justement créer un bastion imprenable face à cette menace qui avait justement de premier contact avec les forces galactiques positives et la population à la surface de la planète. Donc ça, voilà, c'est tout à fait cohérent avec ton expérience, mais on pouvait pas s'imaginer ça, tu vois. Il y aurait pu y avoir un mouvement inverse, qu'ils abandonnent la planète Terre et qu'ils aillent tous se réfugier sur Rigel, et au final c'est la planète Terre qui aurait été libérée, tu vois. Donc
Non, je pense qu'ils tenaient à la planète Terre parce que justement les humains sont tellement programmés que c'est une proie beaucoup plus facile pour maintenir une quarantaine, une prise d'otage beaucoup plus puissante. Donc encore une fois, les obscurs n'existent que par la prise d'otage. C'est le seul moyen pour eux de survivre face à la lumière, pour essayer de ralentir le processus. Donc c'est sûr que forcément ils ont préféré abandonner Rigel pour venir sur la planète Terre. C'est horrible à dire, mais c'est presque logique. Ouais. Enfin bon, voilà, c'est triste. Et aussi ce que je voulais ajouter, effectivement, c'est que moi, pendant des années, en fait, j'ai pas su d'où venaient ces traumas, le sentiment d'avoir été torturé dans le ventre de ma mère, tout ça, c'était des sujets très difficiles. Ma mère voulait pas en entendre parler parce que, bah, pour elle, l'accouchement s'est très bien passé. Il faut savoir que lorsque un enfant naît, vous pouvez pas savoir les traumatismes qu'il a vécu. Il peut être en très bonne santé sur le plan physiologique, physique, quoi. Et donc voilà, ça a créé beaucoup de soucis sur ce plan-là. Et aussi étrange que ça puisse paraître, moi pendant des années, j'ai pas su en fait. Ça me paraissait, enfin jamais j'aurais pu imaginer une telle horreur que non seulement j'étais largué au niveau extraterrestre, je me suis éveillé qu'à partir de 2015. Donc pour pouvoir aboutir comme quoi des extraterrestres négatifs m'ont torturé durant la naissance, pour moi ça paraissait improbable. On m'aurait dit ça il y a 10 ans, j'ai dit attends, faut quand même pas déconner, faut consulter. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après la connexion avec mon âme jumelle, donc j'ai eu ces attaques-là avec des archontes, etc. Et j'ai senti la même énergie que mes traumas. Et là, je me dis, mais attends, ça veut dire en gros que ce sont les mêmes, en fait, qui m'ont torturé quand je suis née. je reconnais la même énergie de profanation, de haine, et de persécution. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai recoupé. C'est comme ça. Et effectivement, quand j'étais enfant, je me souvenais, comme si, enfin, je croyais que c'était dans mon imagination, parce que bien évidemment, en étant incarné, on a les limitations de la 3D. Mais j'avais l'impression que des êtres négatifs voulaient me persécuter. Mais dans le physique, je n'avais pas de preuves. D'accord ? Les archontes ne se matérialisent jamais. Mais effectivement, c'est pour ça que j'ai l'impression, avec les tortures, que j'ai subies d'être un peu un survivant. Je sais ce que je dis, c'est très particulier, pardon, peut-être que des gens seront choqués, mais voilà, c'est mon témoignage en tout cas.
C'est vrai que c'est un témoignage qui est rare. Moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui puisse faire ce témoignage. Alors, c'est vrai que nous, on oppose souvent la vision du monde ou la doxa de Cobra au New Age. Et c'est vrai que quand on est dans le New Age, on comprend pas quoi, de quoi, qu'est-ce qu'il raconte quoi. Une âme torturée au moment de son incarnation, ça rentre pas dans la carte du monde. Donc, mais justement, je sais que c'est pas très positif de parler de ça. On est d'accord, on va passer à autre chose. Mais comment on peut être torturé dans le ventre de sa mère en réalité ?
Après, bon, si vous voulez, je peux rentrer dans le détail de la programmation. Après, je vais peut-être pas non plus tout détailler parce que c'est ma vie privée aussi et qu'il y a des choses qui sont...
Non, mais tu ne dis que ce que tu peux dire. Hein. On est bien d'accord, je te force pas. Hein.
Voilà, Bon, après, voilà, je ne veux pas non plus faire peur. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est horrible. C'est malheureux, mais c'est pas... En fait, là, j'ai fait envoyer une fiche sur mon iPad pour quand même prévoir. Ce qu'on m'a fait, c'est que mon âme a été torturée avant l'incarnation. Ça, je m'en souviens. Ça a été extrêmement horrible. Je pense que je me suis plantée au niveau des choix que je devais faire, parce qu'il faut savoir que lorsque vous rentrez dans la quarantaine, vous faites face aux contrôleurs qui contrôlent votre monde, à savoir les archontes, etc. Et ils ont été d'une violence inouïe. Par moments, rien qu'en y pensant, je peux pleurer parce qu'ils ont voulu me torturer. En fait, ils étaient extrêmement en colère de ma venue dans le monde, parce qu'ils voyaient bien que j'étais porteur d'une énergie qui les dérangeait fortement. Et donc, du coup, ils m'ont incarné dans un corps qui n'était pas mon choix. Donc déjà, ça me faisait beaucoup de peine. Et ils m'ont, au niveau de la négociation, ils m'ont laissé très très peu de choix. Et j'ai senti qu'ils voulaient vraiment me punir, une haine terrible, féroce. Donc là, en fait, tous ces souvenirs sont remontés il y a seulement quelques années. Hein. Avant, j'ignorais tout ça. J'avais juste un souvenir très noir de ma naissance. Et ensuite, durant la naissance, effectivement, ils ont torturé, ils ont fait des choses. En fait, ils ont fait un rituel satanique sur mon corps. Voilà, et ils ont essayé de dissocier mon esprit pour me faire croire que la lumière m'avait trahi. Et en fait, ils ont essayé de me faire passer du côté obscur durant la naissance. Et ils ont essayé aussi de me tuer. Il faut savoir qu'un bébé est extrêmement vulnérable lorsqu'il passe par les voies naturelles de la femme. Il est bloqué, en fait. Il est bloqué et ça a été terrible. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Et je pense qu'ils m'ont torturé à ce moment-là. Ils ont récolté du consentement, ce qui explique que ma vie a été très, très complexe avec beaucoup d'implantations et beaucoup de ce genre de choses-là. Un bébé est extrêmement vulnérable. Un bébé n'est rien, en fait, lorsqu'il naît. Donc voilà. Après, je ne peux pas rentrer dans le détail parce que c'est peut-être trop, trop noir. Ils ont essayé aussi de torturer l'énergie liée à mon âme jumelle. Ils ont essayé de faire trop de, enfin, des choses terribles. Ils ont modifié la forme de mon crâne. C'est la raison pour laquelle, lorsque je suis né, en fait, j'arrivais pas du tout à faire mes nuits. Mes parents ont même failli divorcer à cause de ça, vu qu'ils comprenaient pas que je ne fasse pas mes nuits. Je hurlais tout le temps. J'étais un enfant extrêmement malheureux. Et il n'y a qu'un ostéo qui a réussi à réarranger ça. Et la seule chose qui pouvait me soigner, c'est surtout de masser le front et le ventre, quand par hasard, c'était le lieu des implants. Donc voilà, là je passe vite parce que après c'est rentré dans des sujets trop noirs et je vais pas faire peur aux gens non plus. Mais ça a été très 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 dur. Très très dur. J'ai le sentiment d'être un survivant parmi vous. Je suis un survivant. Normalement, j'aurais dû canner. J'aurais dû y rester.
Bon, alors bon, merci en tout cas de partager et désolé de te faire remémorer tout ça.
Non, pas du tout.
On a une question de Sabrina 44. Elle dit: j'ai du mal à saisir, son âme jumelle est incarnée ou non? Personnellement, je connais mon âme jumelle, elle est incarnée et je la vois comme un complément, un amour inexprimable, un besoin, etc. Qu'est-ce que tu peux dire à cela?
Déjà, donc moi, mon âme jumelle, effectivement, n'est pas incarnée ici. J'ai su bien plus tard, en fait, que la Confédération Galactique, elle évite toujours que deux âmes jumelles partent s'incarner. Il y en a forcément une qui reste dans les vaisseaux et une qui part s'incarner dans des avatars 3D humains, déjà. Et pour répondre à Sabrina, je crois. Bon, alors je peux me tromper, hein, moi je voilà, ça se trouve, je vais dire une bêtise, mais je pense pas que ça soit votre âme jumelle, parce que sinon, il vous aurait tué, en fait, c'est impossible. C'est très sûrement une âme sœur ou une âme avec qui vous avez une fréquence vibratoire particulière. Alors vous pouvez tout à fait être heureuse, avoir une complicité, etc. Mais ce n'est pas un amour inconditionnel qui relèverait ou soit d'une âme sœur ou soit d'une âme jumelle. C'est aussi simple que ça, sinon on vous aurait torpillé.
Sabrina, est-ce que vous souhaitez réagir? Je regarde si vous avez levé la main, non. Sinon, je sens que parmi les co-animateurs, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient poser une question? Ah, bah Sabrina, oui, pardon, je n'avais pas vu. Hop, allez-y, Sabrina.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors pour répondre à Romain, je suis perplexe. J'entends ce que tu dis, je l'entends, je le comprends, je le valide, j'aurais pu être torpillée. Mais il y a ce truc, je te jure, il y a ce truc, il est fort, il est puissant, on est complémentaires, et il y a un truc qui est énormissime et inexplicable. Et la seule chose qui me l'explique, c'est l'âme jumelle, en fait. C'est pour ça que j'entends vraiment ce que tu dis, je le comprends vraiment, c'est possible, mais j'ai du mal à y croire.
D'accord. Est-ce que vous avez, vous avez le droit de ne pas me répondre, est-ce que vous avez eu un déclenchement de la Kundalini suite à la rencontre de cet être?
On est sœurs, donc si c'est arrivé, j'étais petite et je m'en souviens pas. J'ai
D'accord.
beaucoup de blocages dus à ma vie, j'ai beaucoup de blocages, je ne me souviens pas de tout de mon enfance.
D'accord. Ça peut très bien être quelqu'un, effectivement, ou soit de votre famille d'âme, ou soit d'une famille d'âme adjacente. C'est-à-dire que même en fait, les connexions de famille d'âme adjacente sont quand même puissantes.
Qu'est-ce que tu appelles une famille d'âmes adjacentes?
C'est une famille d'âmes, en fait, qui a des connexions particulières avec la nôtre. Moi, j'ai retrouvé certaines personnes de famille d'âmes adjacentes. Alors, on sent que ce n'est pas notre famille d'âmes, mais que les liens, quand même, d'âmes sont puissants. Voilà. En fait, c'est une famille d'âmes périphérique à la nôtre, si tu veux.
En tout cas, pour compléter ce que dit Romain, pour à l'attention de Sabrina et de tout le monde, en fait, si on écoute le contacté Cobra, c'est ce que dit Cobra, c'est-à-dire que il n'est pas possible, les contrôleurs de la matrice font tout pour que deux âmes jumelles, donc, ne puissent pas se rencontrer. Alors, de quoi on parle quand on parle? Alors, flamme jumelle ou âme jumelle. Moi, j'aime pas trop utiliser le terme de flamme jumelle. Je trouve ça trop marketing. Donc, moi, je préfère plutôt parler d'âme jumelle. Qu'est-ce que c'est deux âmes jumelles? En fait, c'est deux âmes qui sont issues du même œuf cosmique primordial. Donc, il y a des millions d'années. Donc, c'est vraiment deux parties complémentaires d'un même être. Et c'est tellement puissant, d'après le contact Ecobra, qu'effectivement, une seule rencontre peut mettre en péril la matrice. Et c'est pour ça. Mais alors le problème, voilà, c'est que ça vient un petit peu. Je suis désolé, hein, ça vient un petit peu tuer dans l'œuf toutes les fantasmes qu'on peut avoir justement par rapport à ça, par rapport à ces rencontres. Mais on en reparlera tout à l'heure. Enfin, moi, j'ai des témoignages par rapport à la notion justement de reconnaissance d'âme. Alors, famille d'âme, c'est aussi également très très puissant. Ça peut aussi mettre en péril la matrice d'une certaine façon. Une famille d'âmes, puisque j'ai donné une définition pour l'âme jumelle, une famille d'âmes, en fait, c'est un groupe d'âmes qui ont évolué pendant des millions d'années ensemble. Pas forcément incarnés dans des corps physiques, incarnés dans des corps, on va dire, à différents niveaux vibratoires, à différents endroits dans l'univers, mais qui ont vécu ensemble des millions d'années. Et donc, bien avant la mise de la quarantaine, en réalité. Donc, il y a une connexion très forte, mais c'est une connexion qui reste quand même moins forte que celle d'avec l'âme jumelle. Et en fait, moi, ce que je crois, et je pense que c'est aussi ce que dit le contact Ecobra, c'est que en général, les connexions puissantes que l'on retrouve dans la matrice, à la surface de cette planète, ce sont des reconnaissances d'âme, c'est-à-dire des personnes avec qui vous avez vécu plusieurs, voire de nombreuses incarnations au sein de la matrice, et vous reconnaissez. Alors, vous vous reconnaissez de différentes façons. Vous vous reconnaissez peut-être parce que justement il y a du karma commun, peut-être parce qu'il y a des, on va dire, il y a des problématiques qui sont à résoudre. Alors, j'aurais aimé avoir justement un témoignage de Lise, mais je suis pas sûr qu'elle sera avec nous ce soir. Elle a un témoignage assez intéressant sur le sujet, mais peut-être que d'autres ont des témoignages. Mais voilà. Donc, âme jumelle, ce n'est pas la même chose que famille d'âme, enfin membre d'une même famille d'âme, et ce n'est pas la même chose que reconnaissance d'âme. Et c'est vrai que dans l'esprit New Age, on a un petit peu trop tendance à romancer tout cela. En tout cas, c'est ma vision des choses, mais je ne veux pas chercher à vous l'imposer. Mais en tout cas, pour moi, l'expérience de Romain colle tout à fait avec ma grille de compréhension justement du système d'incarnation sur la Terre. Alors, on a Amy Free qui veut poser une question. Vas-y, Amy Free, je t'ai activé le micro.
Bonjour, enfin plutôt bonsoir. Ça m'interpelle par rapport au, moi j'appelle ça flamme jumelle parce que je découvre, on va dire, tout ce monde. Je suis pratiquement convaincue d'avoir trouvé la flamme jumelle parce que j'ai vécu la nuit noire de l'âme. Après une rupture, il y a eu vraiment, quand j'ai regardé certaines vidéos qui parlent de ça, je me retrouve vraiment dedans, dans les descriptifs des flammes jumelles. Et du coup, ça m'interpelle en fait. Ben, je suis quasi persuadée et je sens au fond de moi qu'il n'est pas loin et puis qu'il pourrait revenir. Donc, ça voudrait dire que ce que je ressens, c'est faussé finalement.
Alors, il y a beaucoup de vidéos sur les âmes jumelles ou les flammes jumelles. Hein. Bon, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de livres, etc. Mais encore une fois, après, est-ce que c'est vrai? Est-ce que le terme est bien adapté à ce qu'ils ont vécu? Encore une fois, enfin, de mon point de vue, c'est plus un désir qu'autre chose. Et d'ailleurs, on parle de ce sujet-là quand on fait les séances de dissolution des implants. On vous explique en fait qu'il y a des implants qui sont situés au-dessus des sourcils pour nous couper de l'énergie de la source. Et puis, il y a un implant qui est situé au-dessus du nombril, 4 cm au-dessus du nombril, qu'on appelait l'implant horizontal, qui est là justement pour, créer une séparation entre les hommes et les femmes, et un implant qui est programmé différemment entre les hommes et les femmes pour que les femmes justement gardent plus facilement ce souvenir et cette connexion avec cette âme jumelle. Et les hommes, pour n'en garder aucun souvenir. Et c'est ce qui fait que justement, on va dire au niveau du comportement sexuel et dans leur vision de l'amour, il peut y avoir des hiatus assez importants entre les hommes et les femmes. Donc, voilà.
Hervé, excuse-moi de te couper, j'aimerais juste ajouter quelque chose de très important. En fait, tout ce qu'on raconte sur les âmes jumelles concernant le runner et le chaser, en fait, tout ça, c'est bidon. Tout ça, ça découle en fait de la programmation liée à l'implant du ventre. Il n'y a pas de chaser et de runner en dehors de la matrice. Il n'y en a pas un qui court après l'autre. Tout ça, c'est encore de la programmation matricielle qui est faite pour séparer les gens, pour créer des complications. Mais c'est artificiel, du coup.
Je rebondis là sur Romain, je suis complètement d'accord avec lui, dans le sens où je pense que c'est une programmation aussi de faire croire en tout cas à certaines personnes qu'elles ont rencontré leur flamme jumelle. Et pour étayer ça, en fait, je voudrais partager
Ça coupe, Gwen, on t'entend plus là, ça a coupé. Tu voulais partager quelque chose, mais on t'entend plus.
Ouais, ça, mon ordinateur a coupé. Par rapport à ça, c'est la méditation au moment de l'éclipse solaire que j'ai effectuée avec pour les otages. Et en fait, à un moment donné, dans la méditation, ça dit que les forces de la lumière libèrent tous les otages. Et en fait, à ce moment-là, j'ai une grosse connexion qui m'a un gros ressenti à l'intérieur où je me suis dit, imagine là, tu fais la méditation. Si par exemple, ta flamme jumelle qui est présente à ce moment-là, qui fait partie des forces de la lumière pour la libération des otages, la puissance que toi tu mets dans ta méditation, mais en fait tu la transfères également à ta flamme jumelle qui elle est en train d'effectuer une mission à ce moment-là. Et du coup, ça, je trouve que ce que dit Romain dans le sens où c'est une programmation de nous faire croire qu'on a notre flamme jumelle à côté, en fait, du coup, on peut perdre cette connexion ou en tout cas ne pas la ressentir. Et du coup, on peut devenir moins puissant, moins avoir envie en tout cas de participer à ces méditations mondiales. Parce que si on imagine que notre flamme jumelle se trouve dans l'équipe de la libération de la planète Terre, mais à chaque fois qu'on agit à travers des méditations mondiales ou autres, en fait, on envoie notre puissance à cette flamme jumelle qui est en pleine action à ce moment-là.
Ouais, très intéressant. D'ailleurs, on envisage de vous proposer, il faut vraiment qu'on s'occupe de ça, de vous proposer une méditation spécifique justement pour la reconnexion à son âme jumelle. On a une méditation là-dessus. Il faudrait qu'on travaille sur un support. Mais voilà. J'ai bien conscience que l'immense majorité des gens, quand ils ont une connexion forte avec une autre âme, ils vont avoir naturellement tendance de parler d'âme jumelle ou de flamme jumelle. Mais il faut prendre en compte donc cette problématique des implants et il faut en réalité il faudrait regarder beaucoup plus en détail les différents types de connexion d'âme. Donc, je vous invite à poser vos questions. J'ai bien conscience que le témoignage que vous apporte Romain et n'est pas un témoignage justement mainstream. C'est justement, il va à l'encontre de ça, et c'est aussi pour ça que je souhaitais le faire parler, parce que moi je trouve qu'il résonne vraiment l'authenticité et puis c'est une expérience de première main. Donc, prenez-le comme un cadeau. Effectivement, questionnez les informations qu'il vous donne parce que c'est un peu difficile à digérer, à absorber. Mais prenez-le néanmoins comme un cadeau.
Moi, j'ai deux questions à poser à Romain, s'il est d'accord.
Je t'écoute, Pierre.
Par rapport à la situation actuelle, notamment sur les vax qui… on le sait, aujourd'hui, font sauter l'ancrage ou la part divine. Est-ce que ça ne serait pas en complément de ce que tu dis par rapport au plan d'essayer de neutraliser les flammes jumelles quelque part ou, voilà, parce que, en fait, moi, je m'interroge, je t'écoute, je ne connais pas grand-chose sur le sujet que tu évoques. Je suis très loin de ça, j'avoue. Mais quand j'écoute, j'essaye de comprendre ce que tu dis. Depuis tout à l'heure, je m'interroge en me disant est-ce que derrière la civilisation dont tu parles et où tu as été toi-même maltraité avant ta réincarnation, aujourd'hui le plan démoniaque de ces gens-là ou de cette civilisation-là, sachant que la Terre est quand même actuellement, on parle de moisson quand même, faut dire les choses. Et avec l'histoire du vax, est-ce que ce ne serait pas un moyen de neutraliser justement la possibilité de pouvoir trouver son âme jumelle? Les âmes sœurs, je pense que c'est un petit peu différent, parce que je pense que les âmes sœurs sont, même si elles sont peut-être moins puissantes que les âmes jumelles, néanmoins, je dirais qu'en tant que âme... âme sœur, on a plus de cordes à nos arcs pour se reconnecter les uns les autres, et puis c'est plus difficile pour eux d'arriver à nous choper que les flammes jumelles, les âmes jumelles, je dirais. Alors peut-être que je dis une bêtise en disant ça, mais voilà. Donc quelle est ton impression là-dessus? Excuse-moi pour la question un petit peu fouillue là, mais voilà.
Non, je comprends bien ce que tu veux dire, Pierre. Moi, je pense en fait que les vaccins, au départ, n'ont rien à voir avec les âmes jumelles. Je pense que l'obscurité a beaucoup d'armes, indépendamment du vaccin, pour séparer les âmes jumelles. Ils peuvent créer des conflits, ils peuvent créer de la jalousie, ils peuvent déconnecter les gens, ils peuvent même te trouver un boulot à le bout de la planète pour trouver une excuse pour partir. C'est ce qui m'est arrivé dans certaines relations extérieures que j'ai pu voir. Ils ont des armes. Il faut savoir que les entités travaillent 24 heures sur 24, donc c'est de la folie. Moi, ce que je dirais, c'est que les vaccins, c'est vraiment une vengeance terminale de la cabale. C'est-à-dire qu'ils savent maintenant qu'ils vont perdre, ils savent que c'est fini, donc ils veulent qu'on crève avec eux. Donc, je pense que ça n'a rien à voir avec les âmes jumelles, encore une fois. Les vaccins sont vraiment un programme, je pense, d'holocauste à long terme, parce que l'obscurité est vraiment désemparée, quoi. C'est la fin, quoi.
Excuse-moi, parce que tu as l'air de dire que quand tu rencontres ton âme jumelle, en fait, ton âme jumelle, elle est tout le temps avec toi. C'est-à-dire que la personne qui est censée être ton âme jumelle est censée être avec toi tout le temps.
Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est un être ascensionné. Et elle est rentrée dans, elle s'est faufilée à travers la quarantaine matricielle discrètement. Sauf qu'au bout d'un moment, avec le contact hiérogamique, on s'est fait remarquer par les contrôleurs. Mais si tu veux, je sens par moment qu'elle est pas très loin de moi, mais je pense qu'on a dû lui dire, mais ça craint trop, arrête de le contacter, ça craint trop. Donc depuis au moins 2 ans, à part quelques rares occasions où je la sens énergétiquement pas très loin de moi, je pense qu'elle a reçu l'ordre, l'interdiction de se connecter à moi. C'est beaucoup trop dangereux.
Oui, non, parce que c'est ce que j'allais te dire quelque part. Donc, on est tous connectés les uns avec les autres, comme sur les lieux. Donc, on peut se connecter facilement ici ou à l'autre bout de la planète, peut-être sur une autre planète. Je pense qu'on se connaît. Enfin, c'est même.
Mon son est un peu haché, Pierre. Je ne sais pas pour quelle raison, mais.
Oui, on a du mal à t'entendre, Pierre. Tu peux reposer la question?
Ouais, je disais, je sais pas si vous m'entendez mieux, parce que
oui, c'est mieux. Ouais. C'est mieux. Oui.
Bon, je bouge pas pourtant, mais bon, je vais essayer. Oui, en fait, l'idée, pour moi, on est tous reconnectés les uns avec les autres. Donc, en fait, on n'a pas besoin physiquement d'être les uns à côté des autres. On peut très bien, moi, je sais que j'arrive je fais des soins à distance. J'arrive à soigner des maisons à distance également. Ça me pose pas plus de problèmes que ça. Donc, pour moi, l'âme jumelle, elle essaye de rentrer en contact avec toi, mais avec soi.
En fait, c'est moi qui suis rentré en contact avec elle, parce que c'est moi, en élevant mes vibrations, elle a senti comme un signal et elle m'a retrouvé. C'est moi qui ai fait l'erreur de l'appeler, mais c'était un accident.
Ok, d'accord. Oui, mais il faut bien qu'il y en ait un des deux. Enfin, quand tu veux connaître ton âme jumelle, moi, je ne suis pas forcément dans cette recherche. Je me dis, si ça doit arriver, ça arrivera, mais il y en a forcément une des deux qui va contacter l'autre.
En fait, normalement, c'est eux qui attendent que ce soit nous qui nous élevions. Ce n'est pas eux qui vont venir à nous. C'est nous qui d'abord faisons le travail. En fait, c'est ce qu'ils attendent. Okay. C'est ce qu'ils attendent, oui. Mais je le redis, tant que l'événement n'est pas déclenché, vous courez un grave risque. Et en fait, ça ne vous apportera que des emmerdes.
Voilà, oui, mais je l'achète forcément, hein, je te rassure.
Oui, oui. Par contre, après, oui, là, ça sera... quelque chose d'extraordinaire, en plus lié à l'ascension, etc. Mais avant l'événement, je vois pas l'intérêt.
Ouais, ouais, tout à fait. Enfin, peut-être. Ouais. Merci, merci.
Alors moi, je voudrais appeler Lise là qui nous a rejoint pour justement, elle a un témoignage super intéressant à nous faire sur la notion de reconnaissance d'âme. Encore pour replacer un petit peu les choses dans leur contexte et sortir de cette romance âme jumelle, âme sœur. Mais plutôt parler justement de reconnaissance d'âme. Est-ce que tu voudrais bien, Lise, nous en parler? Il faut que tu actives ton micro.
Oui, bonsoir. En fait, j'ai retrouvé des similitudes avec ce que Romain témoigne, notamment dans la notion de vibration. Moi, j'ai fait une reconnaissance d'âme, ça arrive d'un coup, hein, ce genre de choses. On ne programme pas, ça arrive comme ça. Et ce qui m'a fait dire que c'était une reconnaissance d'âme au départ, c'est que déjà, la première fois que j'ai vu la personne, pour moi, c'était comme si je l'avais toujours vue et qu'elle était connue. Et d'ailleurs, spontanément, je me suis retrouvée dans des comportements familiers, alors que ça ne me ressemble pas à aller naturellement vers cette personne-là, à vouloir faire la bise, alors que je ne le connaissais pas, enfin... On se retrouve dans des automatismes un petit peu comme ça qui se réactivent. Et après, les choses qui m'ont fait dire qu'il y a quelque chose d'anormal qui est arrivé, c'est justement cette notion de vibration que décrit bien Romain. Il y avait tous mes corps subtils qui se mettaient à vibrer. C'était très, très fort. Pendant un moment, c'est resté juste comme ça, jusqu'au jour où on avait fait un échange de soins, parce qu'on était tous les deux thérapeutes. Et on avait fait un échange de soins, donc du coup, là, on était plus dans le toucher, le toucher thérapeutique, mais le toucher. Et là, suite aux soins, ça m'a fait ça m'a fait des déblocages énergétiques. Alors, on parlait de montée de Kundalini, mais je pense que ça m'a fait un peu ça. En fait, je me suis retrouvée avec des pics de libido terribles. Alors, quand on recherche, on se croit plus normal du tout. J'étais très gênée. Ça pouvait arriver n'importe quand, dans un magasin, en train de faire mes courses, en plein soin. je maîtrisais rien du tout. Et sur Internet, on voit plutôt les gens qui ont des problèmes de libido plutôt que dans ce sens-là, des trous. J'étais assez perturbée du coup par tout ça. Je ne comprenais pas ce qui se passait à ce moment-là. Et j'en ai parlé à une amie thérapeute et qui m'a orientée vers quelqu'un qui, justement, avait cette connaissance de reconnaissance d'âme dans les vies antérieures et autres. Et c'est là où j'ai commencé à mettre du sens. Alors après, il y a des techniques pour ça aussi. Un peu plus tard, j'ai découvert des techniques comme la sophroanalyse, où on peut, en état alpha, aller revivre justement notre naissance, comme Romain. Là, pour Romain, c'est à la conscience, parce que justement, je pense, comme il est primo arrivant, c'est encore tout frais. Mais quand on est des vieilles âmes avec de multiples incarnations, je pense que tout ça, c'est beaucoup plus difficile en fait d'y accéder. Mais par les techniques d'hypnose régressive, ou moi en tout cas, j'ai mon expérience, j'ai été plutôt dans la sophroanalyse. Ça, c'est pareil, vous avez des personnes qui travaillent avec le chamanisme ou autre, qui peuvent vous donner en fait, elles se branchent à vous en travaillant avec les guides, etc., et peut vous donner votre histoire. Alors, c'est bien, mais là, je pense qu'il faut faire un petit peu attention. Alors, ceci dit, ce qui était assez troublant, c'est que quand, au départ, je suis passée par cette technique-là. Donc, c'est elle qui m'a raconté notre histoire, en fait, avec cette personne. Et c'était, on avait eu une vie antérieure où on avait eu un amour impossible. Et il y a des détails qu'elle m'a raconté qui étaient très... qui faisait que dans cette vie-là, on retrouvait des détails. Alors, c'était des anecdotes, par exemple, sur nos origines, des choses comme ça, qui donnaient sens, en fait. Mais après, j'ai fait des séances de sophroanalyse, et là, j'ai fait des régressions, et en fait, c'est une personne avec qui on a fait plusieurs vies, et ce qu'on vivait, en fait, c'était... comme un nettoyage, en fait. On était morts l'un et l'autre sans avoir pu aller au bout de notre amour. Et du coup, ça avait créé une énorme blessure. Et puis cette blessure, en réalité, elle venait encore de vie d'avant, en fait. Et finalement, sur le moment, on aurait pu penser que c'est une reconnaissance de flammes jumelles ou autre. Bon, moi, je n'avais pas du tout ces connaissances-là à ce moment-là. Mais c'est tellement fort ce qu'on ressent dans les tripes et cette vibration qui est réactivée. Mais avec toutes les blessures qui vont avec aussi, en fait, avec tout l'amour, en fait, qui est présent. Alors, on peut croire que, du coup, cet amour, on a envie de le revivre, en fait. Hein. Mais bon, là, c'était impossible pour moi. En tout cas, j'avais des enfants, j'avais un conjoint. D'ailleurs, ça a été compliqué à gérer. On pourrait croire que c'est une flamme jumelle. On aurait facilement, en fait, j'aurais facilement pu mettre ces mots-là, alors qu'en réalité... Et c'était une personne avec qui j'avais eu des histoires fortes dans des vies passées qui n'avaient pas été réglées, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y avait toujours une charge émotionnelle très, très forte qui était toujours présente dans cette vie-là. C'est comme des restes émotionnels que je gardais en moi. Et comme cet amour, finalement, ça m'avait créé une blessure hein, dans cette vie-là amoureuse, mais du coup, avec une croyance que ben, finalement, l'amour, c'est douloureux, en fait. Et dans cette vie-là, du coup, jusqu'à ce jour-là, je m'étais coupée de m'autoriser à vivre un amour. Je préférais choisir finalement quelqu'un que j'aimais pas trop pour pas risquer de souffrir comme j'avais pu souffrir. Donc voilà, et ça a été l'occasion. Alors, je suis pas du tout avec cette personne-là aujourd'hui, mais ça a été. J'ai mis 2 ans. À travailler finalement sur la charge émotionnelle, parce qu'à chaque fois que je revoyais cette personne, ça me réactivait des choses. Donc, il m'a fallu du temps pour digérer et que cette mémoire, finalement, je puisse rentrer dans l'acceptation que cet amour ne puisse pas se faire, en fait, mais sans être dans une émotion excessive. Voilà, et c'est qu'une fois que j'ai pu travailler sur cet apaisement émotionnel qui était des restes de cette vie-là, que j'ai pu rencontrer, en fait, quelqu'un d'autre avec qui, là, j'ai pu... vraiment laisser exprimer mon amour sans avoir peur de la perte et de la déchirure. Voilà pour mon expérience là de reconnaissance d'âme pour le coup, qui n'était pas une flamme jumelle, mais qui avait des similitudes dans cette notion de vibration, de montée de Kundalini. En fait, c'est de l'énergie qui se débloque, en fait, parce que finalement, avec nos mémoires, on a des blocages qui se font à différents niveaux, que ce soit émotionnel, avec des restes qui ne nous permettent pas de vivre la vie qu'on devrait avoir là, parce qu'il y a des blocages qui restent sur des vies antérieures. Et puis sur tous les plans, finalement, hein, parce que l'énergie, du coup, ne peut plus bien circuler avec les implants et autres, mais déjà aussi avec ces restes de mémoire émotionnelle. Donc, voilà le témoignage que je peux vous faire, en tout cas, de mon expérience sur les vies antérieures.
Merci beaucoup, c'est très intéressant. Mets ton micro en mieux si tu ne peux plus. Mais justement, moi, la question que j'aurais envie de poser, c'est donc aujourd'hui, tu ne le reconnais pas comme une âme jumelle. Donc, effectivement, pour moi, c'est cohérent par rapport à ma grille de compréhension. Mais pourquoi tu ne le reconnaîtrais pas comme une âme sœur plutôt qu'une reconnaissance d'âme? Hein, je fais bien la différence, encore une fois, entre âme sœur et reconnaissance d'âme.
Bah, je t'avouerai que je n'ai pas la réponse, j'en sais rien en fait. Tout ce que je sais dans ce que j'ai retrouvé des vies antérieures, c'est qu'on a fait plusieurs vies ensemble. Donc on a un historique ensemble sur cette planète-là. Après, nos origines, moi j'en sais rien en fait, je ne sais pas.
Romain, est-ce que tu souhaitais réagir à ce témoignage?
Oui, moi, ça m'a ému, et surtout, ce qui a résonné en moi, c'est le fait que, comment dire, c'est vrai que suite à la rencontre de l'être que je pense être effectivement mon âme jumelle, ma vision de l'amour a radicalement été changée, mais vraiment radicalement. C'est-à-dire qu'avant, je cherchais un physique, maintenant, le physique, je m'en fiche complètement, je recherche une vibration d'âme, ce qui est radicalement différent. Et aussi, voilà, mes goûts amoureux et ma libido ont changé. Voilà, donc effectivement, il y a eu des perturbations à la suite de la rencontre de l'âme jumelle qui se crée. Et surtout, on comprend avec du recul que toutes les relations sur cette planète, effectivement, ne sont pas basées en très très grande partie sur les familles d'âmes. Ce sont des relations en dehors des familles d'âmes, c'est-à-dire basées sur l'attachement émotionnel. Mais ce n'est pas l'amour véritable qui relève de l'amour inconditionnel. Voilà la leçon que j'ai pu apprendre.
D'accord, merci. Alors je regarde s'il y en a des questions.
Une autre expérience aussi peut-être que qui rejoint un petit peu ce que disait Romain, c'est par contre quand j'ai fait des séances de chambre à tachyon, là au bout de plusieurs séances, je me suis retrouvée sur un vaisseau. Alors, en corps et astral, hein, ma conscience s'est retrouvée sur ce vaisseau. Et là, j'ai reconnecté avec ma famille, je pense plus d'âmes, en tout cas, eux me connaissaient. Et là, par contre, le fait de recontacter cette connexion, pour moi, ça a été très, très fort. Et quand, après, je suis rentrée chez moi, pendant plusieurs, presque pratiquement une semaine, il y avait mon âme qui criait, quoi, et qui avait qu'une envie, c'était d'aller se reconnecter à ces êtres-là. Et j'avais ce sentiment de séparation, comme pouvait décrire Romain, d'être vraiment séparée, quoi. Du coup, c'est douloureux parce que c'est vraiment un déchirement, en fait. Un déchirement de se sentir séparé alors qu'on a des êtres autour de nous, hein, qui nous aiment et tout ça, mais on a cette blessure de séparation qui s'active et qui est forte.
Oui, ouais, puis on sait que, en fait, l'âme sait très bien que c'est un amour unique et on ne peut pas le remplacer par quelque chose d'autre. On peut être tout à fait comblé par une relation avec quelqu'un basée sur l'attachement émotionnel, mais au fond, ça ne remplacera jamais la dimension unique de l'amour véritable qu'incarnent les relations d'âmes jumelles. Voilà, c'est vraiment la leçon que j'ai pu faire. Et je pense aussi que Et le moment quand j'ai souffert durant mon adolescence, etc., et que tout cela commençait à émerger, mais je ne savais pas, effectivement, ce n'est pas de la souffrance psychologique, c'est de la souffrance spirituelle. Et en fait, inconsciemment, on sait très bien que tant qu'on n'aura pas re-rencontré cet être, en fait, on ne pourra pas être comblé. On n'aura pas ce sentiment d'être complet, vu que deux âmes jumelles, c'est quoi? C'est deux êtres individuels qui partagent une même conscience. Donc c'est vraiment une dimension, une relation qui est unique, vraiment.
Alors moi, je voulais préciser par rapport à cette notion de fusion d'âme. On a fait un live, c'était fin 2020, là, que vous pouvez retrouver sur la chaîne Hervé Gaïa, pour parler du Codex Galactique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette notion de fusion d'âme, c'est un droit, d'après les principes du Codex Galactique, ce n'est pas une nécessité. C'est-à-dire que, en fait, souvent on parle de deux âmes qui fusionnent parce qu'on se rapproche, parce qu'on s'entend bien, etc. Mais en réalité, sur le plan galactique, des âmes peuvent redevenir un seul et même être. Mais ce n'est pas une nécessité, c'est un droit, encore une fois, face au Codex Galactique, mais ce n'est pas une nécessité. C'est vraiment au libre arbitre de chacun en fonction de ce qu'on souhaite vivre. Donc voilà, je voulais juste préciser ce point-là. Alors il y a 4XR. Et qui voulait poser une question depuis pas mal de temps. Alors, sauf si elle a appuyé par erreur sur son micro, je ne sais pas. Mais je vous ai donné la possibilité de vous exprimer si vous le souhaitez.
Oui, bonjour. Non, ce n'était pas vraiment une question, c'était plutôt un témoignage, un peu comme Lise. Donc, moi, je découvre un petit peu ce sujet-là ce soir. C'est quelque chose qui m'intéresse parce que je me suis toujours posé la question si moi aussi, j'avais rencontré alors âme sœur, âme jumelle. Je ne connaissais pas trop la différence. Maintenant, je crois que c'est un peu plus clair pour moi. Donc, je pense que c'est plus en effet une âme sœur. Bon, pour résumer un petit peu la situation, c'est mon mari, en fait, ça fait 30 ans qu'on se connaît. C'était un peu particulier. Moi, j'étais quelqu'un de très, très, très indépendante à l'époque. Je pensais vraiment finir toute seule. Et quand je l'ai vu une première fois, c'était un an avant qu'on se rencontre, je l'avais vraiment, mais c'était comme un flash, quoi, au milieu de tout le monde, on était au milieu d'une foule, et je l'avais remarqué. Et quand on s'est revus un an après, c'était évident, quoi. On n'aurait jamais dû être ensemble parce qu'il était plus jeune que moi, il avait 3 ans de moins à l'époque, et c'était, pour tout dire, il avait à peine 18 ans, moi j'avais 21 ans, c'était vraiment complètement improbable. Et on était tellement bien ensemble, c'était comme une évidence, ça s'est fait comme ça. Donc, 30 ans sont passés, on a deux filles, enfin, une vie assez formidable. Et récemment, ce qui s'est passé, c'est que moi, je crois que j'ai commencé à me réveiller vers 2015. Donc, en lâchant mon travail, moi, je suis conceptrice graphique, donc j'ai toujours été en agence, j'ai été opprimée, pressée comme un citron toute ma vie, et un besoin, vraiment, j'avais l'impression de mourir à petit feu. Donc, j'ai commencé à partir et à me mettre à mon compte à cette époque-là. Énormément de questionnements, et je pense que mon éveil a commencé petit à petit à cette époque-là. Et ça a été très, très violent il y a un an, où tout m'est apparu d'un coup, et j'ai rien compris de ce qui se passait. Parce que moi, j'ai toujours été agnostique, anti-religion, enfin tout ça. Et d'un coup, ça m'est tombé dessus. Enfin, moi, tous mes amis ne me reconnaissent pas. Et mon mari, évidemment, ça a été terrible parce que lui, il fait encore partie de ces gens qui sont complètement programmés. Donc, ça a été une année très, très, très difficile pour nous. On vient de se séparer. Mais il y a un lien indéfectible qui nous lie. Donc, donc il a pris un appartement, mais bon, on se voit quasiment tous les jours, il est toujours là. Et c'est vraiment, pour moi, cette définition d'amour inconditionnel, où il a accès, enfin, on a tout traversé, j'accepte sa différence, il accepte la mienne, il y a un respect total, on se comprend pas du tout parce qu'on est dans deux mondes différents aujourd'hui, mais il y a ce lien qui est là. Et donc, voilà, alors j'attendais un petit peu des réponses ce soir. Alors, peut-être que quelqu'un pourra me répondre. Voilà.
Répondre à, enfin, c'est quoi ta question en particulier justement?
Est-ce que c'est une âme sœur? Est-ce que c'est une âme jumelle? Est-ce que c'est une reconnaissance d'âme? Je ne sais pas. En tout cas, ça reste un grand mystère pour moi. Et voilà, c'est une question que je me pose depuis un certain temps. Et c'est vrai que quand j'ai vu qu'il y avait cette émission-là, ça m'a intéressé d'en apprendre un petit peu plus. Alors, d'emblée, avec ce que je viens d'entendre ce soir, j'aurais tendance à penser que c'est une âme sœur, peut-être. Mais, et lui dit la même chose, parce que c'est quelque chose qu'on s'est avoué il n'y a pas très très longtemps. On se pose cette question-là.
Est-ce que quelqu'un souhaite répondre à Katixer? Romain, peut-être que... Lise,
oui. Mon réponse, ce serait la réponse, il n'y a que vous qui le savez, en fait. Et après, si vous voulez creuser, c'est d'aller sur des techniques de sophro-analyse pour aller retrouver dans vos tripes, en fait, et retrouver la mémoire, éventuellement, des vies antérieures et de ce lien que vous avez particulier avec lui. Mais voilà, moi, je ferais ça.
Ok, moi j'ai pas encore de certitude à ce sujet-là. Donc on avance, on continue à avancer et voilà quoi. C'est une grande aventure. Donc on se rend énormément service parce que je pense que moi je lui rends service pour évoluer et lui pareil. Voilà, ça a permis de débloquer énormément de choses sur l'acceptation, hein, évidemment, vous imaginez bien. Donc voilà. Bon, en tout cas, merci. Merci pour tous ces bons conseils et toutes ces informations que je découvre ce soir. C'est très intéressant.
Moi, en ce qui me concerne, moi, j'aurais tendance à considérer que, justement, pour l'immense majorité, tout ce qui est pris pour des flammes jumelles, pour des âmes sœurs, sont, pour l'immense majorité, des reconnaissances d'âme. Encore une fois, parce que j'admets le principe que vient de nous raconter Romain, qui est que effectivement rencontrer une flamme jumelle c'est impossible dans la matrice, car trop dangereux pour la matrice. Et rencontrer une âme sœur, c'est-à-dire ce que j'appelle une âme sœur, c'est une personne de sa famille d'âme, donc encore une fois une âme avec laquelle on a évolué pendant des millions d'années avant l'entrée dans la quarantaine. Ça représente aussi potentiellement beaucoup trop de lumière pour la matrice, même si c'est un peu moins par rapport comparativement à la flamme jumelle. Et d'ailleurs, Cobra disait qu'en général, les archontes font en sorte que deux membres d'une même famille d'âmes, enfin, ils font en sorte que deux membres d'une même famille d'âmes ne se rencontrent jamais. Et donc, dans l'immense majorité des cas, personnellement, voilà, c'est ma conviction, c'est de la reconnaissance d'âme, cette reconnaissance d'âme pouvant être plus ou moins forte suivant justement le nombre de vies qu'on a pu faire ensemble à l'intérieur de cette quarantaine.
Ok, oui, ça répondra assez à l'interrogation que je me posais aussi. C'est vrai que j'ai aucune connaissance à ce sujet et aucune certitude de toute manière. Donc, une reconnaissance d'âme, pourquoi pas, oui, ça pourrait correspondre.
J'ajouterais juste, Hervé, effectivement, je pense que les âmes sœurs dérangent également la matrice pour la simple raison que les âmes sœurs canalisent l'énergie de l'âme jumelle de manière réciproque. Donc finalement, quelque part, lorsqu'on parle d'âme sœur, on parle aussi d'une manière canalisée entre âmes d'âmes jumelles. C'est pour ça.
D'accord. Non, mais ok. Ok, ça vient de répondre à mes interrogations et je continue à avancer. Merci.
Merci beaucoup. Alors, on a Sébastien, en fait, qui voudrait nous rappeler justement le mythe de Platon. Je ne sais pas si vous en souvenez, vous avez peut-être étudié ça en philosophie, que chaque être à l'origine est issu d'une boule qui aurait été scindée en deux. Alors, je dis ça très mal et de façon très caricaturale, mais Sébastien, alors attends, est-ce que tu souhaiterais prendre la parole? Oui, voilà, c'est ça. Je te donne la parole. Vas-y, active ton micro.
Bonsoir à tous. Ouais, donc les histoires de d'âme sœur, de flamme jumelle et flamme jumelle, flamme sœur, etc., etc. Je fais tout de suite le lien avec donc ce mythe de Platon qui avait été écrit. Alors c'est une histoire en fait avec un banquet dans lequel il expose sa théorie sur les origines de l'être humain et plus exactement comment lui il interprète cette quête que l'on a tous de trouver une moitié, ce sentiment de ne pas être complet, qui serait que à l'origine les êtres humains étaient puissants parce qu'ils étaient doubles et ils étaient soit tout mâle, soit tout femelle, soit androgyne. Et je pense qu'il y avait a priori une majorité d'androgyne, puisque ça veut dire que on cherche une âme sœur de l'autre sexe du coup. ce qui aussi explique probablement pourquoi les Grecs sont aussi friendly sur les rapports homosexuels, puisque du coup les mêmes limites l'intègrent en fait dans l'idée qu'on se fait des rapports amoureux. Ce qui est à retenir en fait Zeus trouvait les êtres humains à l'époque trop puissants. Et comme il se sentait menacé potentiellement par un soulèvement des êtres humains, eh bien, il a utilisé ses pouvoirs pour séparer les êtres humains en deux. Et donc Platon a tiré de cette histoire la raison pour laquelle on cherche désespérément sa moitié ici-bas. C'est une mythologie qui je trouve est pertinente, mais quelque part, maintenant que j'ai compris plusieurs choses, j'en ai une interprétation différente. C'est-à-dire que quand j'avais appris ça, j'étais rentré à fond dans le côté ça explique pourquoi on cherche absolument à être en couple, à être heureux à deux, etc. etc. Mais il y a quand même un souci avec ça, c'est que ça implique qu'on est véritablement pas complet et qu'on est totalement dépendant d'un extérieur pour se sentir complet. Et ce qui fait que la vision que j'en ai, ce serait plutôt une affaire de réunification de soi-même, en fait, avant toute autre chose. Et que cette fameuse moitié que l'on cherche, et que l'on cherche à l'extérieur, cette recherche extérieure, ça fait partie du voyage initiatique, jusqu'à temps qu'on découvre que pour sentir cette complétude, cet amour finalement véritable, on peut le sentir totalement par et pour soi-même avant toute autre chose, et c'est à partir de cette fusion avec soi-même qu'on débloque une toute autre vision des rapports humains et que l'on développe finalement un tout autre niveau d'accès à éventuellement des rapports amoureux avec autrui. Voilà.
En tout cas, bon, moi, je ne connais pas le mythe dans le détail, mais Zeus, qui aurait voulu justement nous enlever une part de notre pouvoir en nous divisant en deux, moi, je trouve que ça collerait plutôt très bien avec cette grille de compréhension qu'on souhaitait donner ce soir, justement, par rapport à l'âme jumelle. Parce que justement, ça, c'est trop puissant pour ce qu'on appelle la matrice. Zeus pouvant... Alors, à l'époque, on ne parlait pas de matrice, hein, à l'époque des Grecs. Mais sans doute que déjà, il y a quelque chose qui fait que on considérait que pour la quarantaine dans laquelle nous vivons, il n'était pas question d'avoir un individu complet fusionné avec son autre moitié. Moi, je l'interprète totalement dans notre sens.
Bien sûr. Alors, pour moi, en fait, les deux ne s'excluent pas. C'est-à-dire que de comment je...
Ah, tu es coupé là.
Ouais, non, pardon. De comment j'intègre ça, c'est que je pense malgré tout que sur nos chemins de vie, il y a des rencontres qui sont écrites, qui sont prévues et qui ont vocation peut-être à être d'autant plus catalyseurs d'une réunification de soi-même, de ces différentes parties, parce que finalement, de ce que je lis aussi beaucoup de tout ça et de ce que je ressens, c'est qu'en fait, on est morcelé ici-bas. On est morcelé à tout un tas de niveaux, sur tout un tas d'aspects, que ce soit bassement terrestre comme au niveau des corps subtils. Il n'y a qu'à voir le fait qu'on est responsable de rien et coupable de tout. On n'est même pas responsable de comment on gère sa santé, de comment on gère ses finances. Enfin, on est maintenu à l'état d'enfant, en fait. C'est juste, on est infantilisé à 200%. Et les rencontres de flammes jumelles ont vocation en fait à simplement catalyser d'un coup ce besoin de se réunifier déjà pour soi-même. Et en tout cas, c'est comment je l'ai vécu. J'ai eu plusieurs histoires intimes, comme beaucoup, et c'est juste qu'au fil de ces histoires, on apprend différentes leçons sur qui on est, comment on se comporte, et jusqu'à temps que on en devienne plus mûr, finalement sur, sur un amour de soi, en fait.
D'accord. Est-ce que quelqu'un souhaiterait réagir sur ce que vient de nous dire Sébastien ou pour poser une question ou pour apporter un témoignage? Donc, vous devez cliquer sur votre micro pour pouvoir demander la parole. Pour qu'on puisse... Oui.
Ouais, moi, je ne suis pas aussi catégorique que ça. Moi, je pense que tant que tu n'as pas compris le message qu'on essaye de te faire passer ou ton évolution ou pourquoi tu dois évoluer, effectivement, la difficulté va se représenter. Moi, je suis plus pragmatique que ça, voilà, à ce niveau-là.
Alors, attends, de quoi tu parles exactement? De quelle difficulté tu parles?
Je reviens sur les propos de Bjor Kyo.
Très bien.
Pardon. sur la fin, où il dit, en fait, c'est un apprentissage, enfin, la matrice, enfin, moi, je parle de matrice, hein, du Deep State nous infantilise ou quoi que ce soit. Ça, c'est une chose, c'est une première chose, mais ça, c'est pour nous maintenir en esclavage. Ensuite, dans notre vie de tous les jours, moi, je pense que tant qu'on n'a pas compris le message, ce que l'univers ou peu importe, vous l'appelez comme vous voulez, essaye de nous faire passer, la difficulté va se représenter jusqu'au moment où tu as compris, et là, tu vas corriger ou tu vas accepter ou tu vas voilà. Moi, je suis plus voilà, je suis plus pragmatique que ça à ce niveau-là.
Ok, mais alors l'univers veut te faire comprendre quoi, d'après toi, justement? C'est quoi?
Au niveau de tes évolutions, de ton évolution, de manière à te faire évoluer. C'est-à-dire que quand dans ta vie tous les jours, si tu fais une erreur et que tu comprends pas pourquoi tu fais cette erreur va se représenter à toi régulièrement. Alors, on va prendre le cas de le plus courant, on va dire, c'est au niveau des justement peut-être de la rencontre. De l'âme sœur ou enfin de l'amour, on va dire, où les gens comprennent pas en disant oui je comprends pas, on m'envoie toujours les mêmes types de personnes ou voilà. Bah, tant que t'as pas compris, tu vas tomber sur le même type de personnes parce que effectivement il y a un message qu'il faut que tu comprennes. Moi c'est mon analyse.
D'accord. Donc c'est la vision de l'école de la vie, finalement, tout ce qu'on appelle tout simplement l'école de la vie.
Tu peux appeler ça l'école de la vie, si tu veux. Oui, c'est on peut appeler ça l'école de la vie. Oui.
Ou l'école de l'incarnation, ou l'apprentissage, justement, de l'incarnation.
Ben, c'est l'apprentissage de l'incarnation, parce qu'au départ, tu ne sais pas. Enfin, là, aujourd'hui, on est tous, enfin, pas tous, mais pour beaucoup, on est quand même à quel que soit l'âge, il n'y a pas d'âge, hein, mais bien sûr, parce que si je prends le cas, l'âge de Romain ou de Bjor. Bjor Kyo, excuse-moi, j'ai du mal à prononcer ton nom, je suis désolé.
Sébastien,
merci, parce que je suis un peu dyslexique, donc il y a des choses comme ça, je bloque un peu. Quoi. tu appelles ça l'école de la vie, mais je veux dire, il y a un moment donné, tu as une évolution spirituelle, tu as une élévation qui se fait. Donc, est-ce qu'on peut parler de l'école de la vie? Je ne suis pas convaincu, parce que la vie, il y a la vie terrestre, et puis il y a la vie spirituelle, ou la vie désincarnée, ou la vie... Enfin, voilà, on évolue, je veux dire, on le sait très bien. On ne le sait pas forcément au début, parce qu'on est encore une fois, on est dans une espèce de matrice qui nous maintient avec des connaissances qui sont plutôt très limitées, en fait. Et on ne veut surtout pas qu'on arrive à connaître ou à savoir d'autres choses pour bien nous conserver. Et puis, à un moment donné, bah, quand tu commences à avoir un certain éveil, eh ben effectivement, tu tires le fil de la pelote de laine et petit à petit, ça va t'amener donc à des discussions comme on peut avoir ce soir. Moi, il y a des choses que je ne connaissais absolument pas. Hein. J'écoutais Romain avec attention tout à l'heure, justement. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Et au fur et à mesure, tu vas t'élever, ça va te permettre aussi d'évoluer dans ton comportement, dans ta philosophie, dans l'acceptation de l'autre, dans ta acceptation aussi de l'amour. Par rapport à l'amour Il y a l'amour, oui, l'amour au sens large hein, du terme, l'amour inconditionnel, ce qu'on appelle l'amour inconditionnel vis-à-vis de son prochain, et donc te faire évoluer. Et aujourd'hui, on en est tous à un stade d'élévation, certains ne le comprennent pas encore, d'autres sont déjà engagés, d'autres arrivent seulement, et qui va faire que demain, on va aller vers... moi, je dis New Age, non, mais on va aller vers un monde nettement meilleur, quoi. Alors, je ne sais pas si nous, on en profitera ou ça sera plus les enfants ou quoi que ce soit, mais en tout cas, on y contribue. On essaie d'y contribuer.
Alors, je te parlais de l'école de la vie, mais moi, ce n'est pas du tout ma grille de lecture. Hein. Je sais que c'est une grille de lecture qui est partagée par beaucoup de personnes dans le monde de la spiritualité, mais moi, je rejoins complètement Romain et toute son expérience me parle terriblement. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas une école. Hein, quand tu t'incarnes, que tu te réincarnes et qu'on te fait oublier tout ce que tu as appris dans ta vie précédente, c'est pas ce que j'appellerais une école.
Oui, parce que tu l'as vécu, mais quand tu l'as pas vécu, tu peux pas en parler.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Vous avez la chance de l'avoir vécu, la chance ou pas, selon, parce que si j'écoute Romain, je suis pas sûr que ça soit top à chaque fois, mais bon. mais quand tu l'as vécu, ou voilà, tu peux en parler, mais quand toi tu l'as pas vécu, en tout cas, tu n'as pas forcément le souvenir de l'avoir vécu. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai pas, hein, ce souvenir-là. Je peux pas en parler comme toi ou Romain.
Alors, Romain n'a pas vécu de réincarnation dans la matrice, puisque justement, il est primo arrivant. Donc, c'est sa première incarnation ici.
Et, exactement. Donc, j'étais un être ascensionné avant. C'est la raison pour laquelle j'ai l'impression de venir du paradis, vu que l'écoulement temporel d'où je viens est radicalement différent de celui de la troisième dimension dans laquelle on se trouve. Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est un être ascensionné, on est au minimum en cinquième dimension, et en fait, l'impression psychologique du temps, c'est justement qu'il n'y a pas de temps. On a l'impression d'être dans un présent éternel d'amour et de joie.
Je voudrais préciser une petite chose parce que par rapport à ce que tu dis, parce que ça peut paraître très prétentieux pour certains de dire avant j'étais un être ascensionné, mais en fait c'est pareil, hein, il y a beaucoup de fantasmes par rapport à ça. Être un être ascensionné, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement être incarné dans un corps de moins grande densité que par exemple la cinquième, que le corps physique. Ça veut dire juste ça. Et il y a vraisemblablement parmi les travailleurs de lumière, l'immense majorité étaient des êtres dits ascensionnés avant de venir dans la matrice. Donc là encore, il faut travailler sur le vocabulaire, il faut le travailler au corps, il faut sortir du marketing spirituel, il faut sortir de la romance. Un être ascensionné, c'est juste être incarné dans un corps qui n'est pas physique, qui est de moins grande densité que le plan physique. Donc voilà, c'était juste pour remettre les choses dans leur contexte, parce que ça peut vous sembler un petit peu hurluberlu quand on parle d'ascension planétaire, que le Graal, c'est devenir un être ascensionné, que Saint-Germain, etc., sont des êtres ascensionnés. Non, non, là encore une fois, il y a beaucoup de méprise et on parle un petit peu à tort et à travers sur ce sujet-là.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous rentrez de plein gré dans la quarantaine, la seule chose que vous impose en fait la Confédération Galactique pour vous donner le droit de partir en mission, c'est que vous ayez déjà effectué une ascension. Autrement dit, ceux qui vont ascensionner là après l'événement, en fait, ils vont réascensionner, vu qu'ils étaient ascensionnés avant. C'est une condition préalable pour s'incarner sur la planète Terre de la part de la Confédération. Voilà, autrement dit, les gens seront déjà normalement, vu qu'ils ont déjà ascensionné avant.
C'est super intéressant ce que tu dis là. Oui, Pierre, excuse-moi, je te donne la parole après. Mets ton micro en muet. C'est parce qu'en fait, pourquoi? Parce que justement, l'ascension qu'on va vivre sur la Terre, je pense qu'elle est d'un niveau de difficulté différente de celle qu'on a pu connaître en dehors d'un monde de quarantaine. Parce que ascensionner dans un monde où on n'est pas dans une matrice, on n'est pas assujetti à des forces du mal, c'est pas la même chose. Je pense qu'elle est beaucoup plus soft, cette ascension. Là, nous, on va vivre une ascension un petit peu plus brutale. Donc, ce que tu me dis là ne m'étonne pas du tout et je trouve cette information très, très intéressante.
Oui, alors, pour la question, Romain, c'était, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont prendre conscience qu'ils ont été ascensionnés ou pas, d'après ce que tu dis, ou j'ai pas bien compris.
En fait, normalement, la Confédération Galactique vous donne le droit de partir en mission et de s'incarner sur cette planète Terre, vu qu'ils se disent, comme vous avez déjà ascensionné en amont, en fait, normalement, si vous vous incarnez dans un corps 3D, vous saurez, en fait, normalement, réascensionner, si tu veux. Je ne sais pas si tu me comprends ou pas.
Non, mais pardon, excuse-moi d'avoir posé la question.
Non, il n'y a aucun souci, mais si tu veux, c'est une sorte de sécurité qu'ils prennent. Voilà,
l'idée, voilà. Bon, de toute façon, il faut savoir qu'autour de la Terre, actuellement, il y a une espèce de brouillard mis en place volontairement pour éviter justement qu'on puisse avoir cette prise de conscience. Donc une fois que le brouillard va être enlevé, c'est sûr que tout d'un coup ça va être beaucoup plus violent pour tout le monde qu'avant.
Absolument, et j'ajouterais aussi, je crois qu'Obra en avait parlé dans une de ses mises à jour, il faut savoir qu'après l'événement, lorsque les contacts vont s'intensifier, etc., que les familles d'âmes vont peu à peu se reconnecter, ça va créer un séisme émotionnel d'amour positif, parce que les gens, la grande partie des gens, en fait, ils ne mesurent pas la puissance de l'amour inconditionnel, ils ne savent pas ce que c'est. Et donc, du coup, ça va créer un bombardement d'amour qui est colossal. Et je pense qu'il va y avoir un peu des situations cocasses, parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui vont se séparer, mais c'est inévitable, mais il n'y aura pas de séparation, de divorce, dans le sens de tristesse. Je pense que les gens, ils sauront, en fait, que ce n'est pas leur partenaire idéal et que ça se fera plutôt doucement. Mais effectivement, il y aura des situations cocasses parce qu'il y a des gens qui se diront voilà, mon être aimé, il est encore sur le vaisseau, mais moi, je dois encore rester ici vu que je dois travailler pour mon ascension. Donc, ça va créer un peu des choses un peu étranges d'avoir une partie de soi-même. En fait, ce qui va se passer, c'est que comme la quarantaine va s'effondrer, en fait, on va se reconnecter aux autres membres de notre famille d'âme et de notre famille galactique qui sont restés en dehors du voile. Donc, cette reconnexion-là, elle doit s'opérer. Et forcément, elle va créer un séisme émotionnel vraiment super puissant.
Mais attends, Romain, là, si on est justement, si on reprend la grille de lecture qu'on a donnée jusqu'à présent, tout va être tourneboulé en réalité, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, en général, on est connecté soit à une personne lambda, soit une reconnaissance d'âme. Demain, on va retrouver nos familles d'âme et notre âme jumelle. Comment veux-tu qu'une relation dans la matrice puisse tenir le coup face à une reconnexion à sa famille d'âme, voire à sa flamme jumelle? Enfin, j'ai envie de dire, ça va juste, comme tu dis, ce sera pas triste, ce sera certainement pas triste, mais il va y avoir une reconnexion qui va être complètement différente et qui va remettre tout en cause. Enfin, je sais pas.
Absolument. En fait, c'est exactement ce que je disais. Simplement, voilà, peut-être qu'il y a des gens, ça va se faire un peu de manière difficile parce qu'on n'a pas tous le même niveau d'éveil. Donc, ça va être, chacun va aller à son niveau, mais effectivement, la reconnexion d'âme est inévitable. Inévitable. Et encore une fois, la famille d'âme, c'est le patron social de base de n'importe quelle civilisation galactique. De base. Donc ça, je pense que la Confédération Galactique, elle veut imposer ça et c'est parfaitement normal. D'autant plus que aussi les relations hiérogamiques au sein d'une famille d'âmes, que ce soit âme sœur ou plus rarement âme jumelle, ça participe complètement au système, à l'énergie. En fait, ça favorise votre ascension. C'est-à-dire, ils l'ont tous fait, même Jésus, il pratiquait l'union hiérogamique avec Marie-Madeleine parce qu'il savait justement que ça allait propulser son ascension. Ils l'ont tous fait. Donc vous voyez bien que aussi la famille d'âmes est intimement liée à l'ascension.
Tout à fait. Alors, je voudrais reprendre quelques commentaires là qu'on a justement dans le chat du groupe Révolution Vibratoire. Donc, il y a Sabrina, donc 44, qui nous dit « C'est dur de se dire que tout ce que l'on a appris, c'est tout bidon. » Il y a Phil G qui dit « Un immense merci et de reconnaissance à Romain pour son témoignage. Enfin, des explications que j'attendais depuis 55 ans. » Tu vois,
ça fait super plaisir. Ouais. J'avoue, je suis content en fait que ce que je peux témoigner, en fait, ça peut aider d'autres personnes. Si ça peut résonner, si ça peut rentrer en vibration, j'en suis comblé. Au moins, mon témoignage ne sert pas à rien. Voilà.
Alors, et je continue justement avec Nathalie Barados qui nous dit gratitude Romain pour ces infos qui m'apportent des réponses jusqu'alors jamais égalées. Voilà. Et il y a Marie-Louise également qui dit ça m'interpelle énormément. Alors, il y a également une question de Phil qui dit « Mais alors, l'école de la vie, ce serait encore une programmation de la matrice ?» Allez, je vous laisse répondre.
En fait, si on rebondit par rapport à ce qu'il disait Romain, par rapport à ce qui va nous arriver, on sait que tout ce qui nous est arrivé entre nos vies antérieures et cette vie-ci, on a ce qu'on appelle la mémoire énergétique. Ces mémoires énergétiques ont des fréquences, des nœuds, et qui vont résonner, qui vont émettre une fréquence. Et en émettant ces fréquences, ça va attirer des situations qui malheureusement vont résonner avec ces fréquences. Mais ce n'est pas l'école de la vie en soi, ce n'est pas pour nous faire évoluer. En fait, c'est juste des résonances qui vont attirer des choses négatives. Alors là, ce qu'on peut faire nous au jour d'aujourd'hui, c'est transmuter ces fréquences justement pour redevenir ce que l'on est, mais on n'est pas aussi abîmé dès le départ en fait. À la base, on était vraiment des êtres qui étaient pure lumière et tout ce qui nous est arrivé ici sur Terre nous a carrément cassé, brisé en fait. Et c'est ces résonances qui ressortent, mais c'est pas ça l'école de la vie. Si on était vraiment sur une planète hors matrice, mais je suis carrément persuadée qu'on n'aurait jamais vécu des choses aussi terribles et qu'on se dise « Ah oui, c'est pour me faire avancer ». Non, c'est pas du tout ça le chemin de la vie, de la lumière pour moi. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, on a l'impression que cette école de la vie, c'est de comprendre ces choses négatives pour nous faire évoluer. Non, 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 c'est pas, pour moi, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'on est en train d'essayer de réparer, de transmuter toutes ces choses négatives qui nous blessent en fait à l'intérieur. Mais c'est pas ça que l'on est. On est carrément pure lumière à la base. Donc non, pour moi, on n'est pas du tout sur une école de la vie. Et c'est cette matrice qui nous a mis dans cette bulle et dans laquelle on n'a fait que nous poignarder à force et à force et à force. Et ça a créé tous ces problèmes de résonance, quoi.
Je pense qu'en fait, lorsqu'on parle de l'école de la vie, effectivement, c'est une gigantesque escroquerie. Parce que l'objectif en fait des contrôleurs de la matrice, c'est de nous faire croire que tout ce qui nous arrive est nécessaire et qu'en fait ça constitue un apprentissage, ce qui est complètement faux. L'amnésie qu'on vous donne avec les implants à chaque naissance, ce n'est pas un apprentissage. Les implants qui vous limitent ne constituent pas un apprentissage. Les attaques, les millions d'attaques qui vont tomberont sur la tronche avec toutes les entités négatives qui vous limiteront, qui appuieront sur vos blessures émotionnelles, ce n'est pas de l'apprentissage. En fait, ce qui est terrible, c'est que dans cette école matricielle, il y a tellement des technologies occultes qui sont puissantes et qui ont enfermé la conscience de l'être humain qu'en fait, plus c'est anormal, plus justement la matrice nous fait croire que c'est normal. Donc en fait, les gens, ils sont perdus, ils n'ont plus de normes et surtout, ils consentent. En fait, le carburant matriciel, c'est le consentement. Et le consentement, c'est quoi à la base? C'est de l'énergie. Donc vous voyez, en fait, c'est une gigantesque prison. C'est pire qu'une prison, c'est une ferme. Vu qu'en fait, on vous élève presque comme des animaux, on vous enlève votre énergie. Quand on dit que l'être humain est en haut de la chaîne alimentaire, c'est faux. La nourriture, au départ, la nourriture, c'est quoi? Avant tout, c'est de l'énergie. Et l'énergie, on peut vous la voler n'importe quand. Voilà.
Et on nous la vole de multiples façons. Alors, moi, j'adore t'écouter, Romain. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, j'adore. Et alors, je vais vous dire aussi pourquoi j'adore Romain. Parce que, en fait, toute ma vie, j'ai cru que j'étais un zéro. Et en fait, Romain, il me dit, ah, mais non, vous êtes des héros. Moi, je suis arrivé juste là comme primo arrivant dans la matrice. Mais vous êtes là peut-être depuis des dizaines, voire des centaines de vies pour essayer d'incarner la lumière justement dans cette matrice. Vas-y, rappelle-nous, Romain, que nous sommes des héros, s'il te plaît.
Mais moi, je vous le dis, moi, je pense que j'aurais jamais pu vivre l'horreur que les gens ont vécu ici. Je pense à Dolores, je pense à Fabienne, je pense à Hervé, je pense à Lise, à des gens qui sont restés durant 26 000 ans, mais c'est abominable. Moi, quand je pense durant 27 ans, déjà, c'est horrible, cette séparation de la lumière, cette séparation de tout, qui, bien sûr, n'est qu'une illusion, hein. Tout ça, ce sont des technologies qui vous séparent de Dieu, qui vous déconnectent de vous-même, qui vous déconnectent de tous vos frères et sœurs de la galaxie, qui vous regardent en ce moment même, d'accord? Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ça se fait dans toute la galaxie, hein. Nous, on croit qu'on est tout seul dans notre petit coin, mais c'est faux ce qui s'est passé dans les camps nazis. Tout le monde était au courant. Lorsque vous avez fait péter des bombes nucléaires, tout le monde était au courant. Donc encore une fois, moi, quelque part, je me dis, j'ai pas à me plaindre. Quelque part, tu vois, Hervé, je me dis, bon, je me suis plaint parce qu'effectivement, j'ai été torturé étant bébé, etc. Mais en même temps, par rapport à vous, j'ai pas à me plaindre. Quand je pense qu'il y a des gens qui sont restés durant 26 000 ans à s'incarner dans des vies terribles, terriblement courtes, des gens, ça se trouve, qui ont été guillotinés, qui ont crevé, qui ont vécu l'abominable, ou pire encore, entre différentes vies qui ont été contrôlées, parce que ce qui se passe, c'est que vous restez en fait sur un plan interdimensionnel, mais vous ne pouvez pas sortir de la planète, hein. Il y a comme une barrière électromagnétique, scalaire et éthérique autour de la planète qui vous empêche de sortir. Et c'est terrible, quoi. C'est une prise d'otage. Je pense que c'est inédit dans l'histoire galactique. C'est vraiment inédit que ça dure aussi longtemps avec une telle intensité d'horreur. C'est absolument abominable. Donc oui, Oui, vous êtes vraiment des héros, mais en fait, vous ne savez pas parce qu'on vous a tellement fait croire l'inverse, vous êtes tellement déconnecté. Mais oui, vous êtes des héros. Je pense qu'il y a des gens qui vous regarderont à la sortie de ce conflit, mais des gens vous diront, mais comment vous avez fait? Vos frères et sœurs vous diront, mon Dieu, mais vous avez vécu le pire que ce que la création peut faire en termes d'erreur, hein, parce que c'est une expérience qui a dérapé. Ces gens déchus au départ, il faut bien savoir que les reptiliens, les archontes, etc., c'est une expérience qui a mal tourné avec les bombes topettes. Au départ, c'était des anges, comme nous, c'était des dieux au niveau de l'âme, c'était des êtres lumière. Donc tout ça, c'est une histoire galactique qui prend fin maintenant. Je sais que c'est très complexe à comprendre, mais oui, vous êtes des héros, vous avez survécu au pire. Au pire. En plus, avec cette anomalie cosmique, vous avez toutes les cochonneries de tout le cosmos qui arrivent sur votre planète. Donc c'est sûr que c'est une merde immonde. On vit dans un merdier pas possible. C'est pour ça que tout est compliqué avec toutes ces entités qui vous font du mal. Mais très souvent, je remarque en fait que les gens sont tellement programmés qu'ils ignorent tout ça. Ils pensent que la vie qu'ils mènent ici est normale, alors que rien n'est normal. Rien. Et peut-être que moi, je suis d'autant plus effaré parce que, comme j'ai vécu le paradis avant, je ne comprends pas. Il n'y a rien qui sonne vrai dans cette matrice. Tout est faux. Et je pense que ce qui va se passer après l'événement, ça va être très, très dur aussi parce que vous allez vous rendre compte que ce monde, non seulement c'est une matrice holographique, mais surtout, elle est infectée par l'anomalie primaire. En fait, l'anomalie primaire a tout infecté, l'architecture, la construction sociale, tout. En fait, c'est un monde à reconstruire. Donc ça va être dur aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'humains aussi qui vont avoir de la peine parce qu'ils vont se dire, mais comment on a pu se faire baiser durant 26 000 ans? Comment on a pu... C'est horrible. Ces êtres-là, ils nous ont fait du mal. Ils étaient sous notre nez. On savait rien. C'est terrible. Donc il va y avoir beaucoup de lumière et en même temps beaucoup de peine parce que quand les gens vont se rendre compte de l'ampleur du complot, mais c'est dément. C'est dément.
Oui, justement, je voulais intervenir. Moi, ça m'est tombé dessus comme ça, je sais pas d'où ça vient. Moi je crois tout ce que tu dis, Romain, hein, vraiment ça résonne vraiment en moi, il y a pas de souci. La seule chose c'est que on nous traite de héros, mais nous on s'en souvient de rien en fait. On se souvient de rien et c'est vrai que c'est incroyable de découvrir ça. Alors moi par exemple, j'ai passé une année à chialer. Je chiale tout le temps, alors que j'ai jamais pleuré de ma vie. Je sais pas ce qui m'arrive. Donc bon, on surmonte tout ça, mais d'apprendre toutes ces choses-là comme ça, c'est incroyable parce qu'en fait, on se souvient de rien et on se souvient par bribes des choses comme ça qui nous arrivent et c'est vrai que c'est assez violent. Et encore, je me dis, nous ça va, on a un peu le temps. Je pense à tous les gens qui vont se réveiller au dernier moment là, dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, ça va être, je pense, chaotique, oui.
Bonjour, j'aurais une question.
Oui, vas-y.
C'est par rapport à la réincarnation, en fait. Donc, ça veut dire que depuis des millénaires, on nous force à nous réincarner, finalement.
C'est exactement ça, oui.
Parce que, justement, j'ai appris que mon âme ne voulait pas se réincarner dans cette vie ici. Donc, j'arrivais pas à avoir mon âme dans mon corps. Elle était toujours à côté. Et que j'arrivais pas à m'enraciner pour le coup dans Gaïa. Donc, ça confirme plus ou moins mon ressenti, en fait, avec tout ce que j'apprends. Je tombe de haut. Très honnêtement, je tombe de haut.
Oui, c'est terrible. C'est une situation abominable, cette planète. Mais effectivement, à chaque fois, vous vous réincarnez. Alors après, tout n'est pas non plus horrible, hein, comme le disait Cobra. Il existe des paradis et des enfers dans les dimensions subtiles, mais même les soi-disant paradis, vous restez quand même bloqué, vous ne pouvez pas sortir. Vous ne pouvez pas aller vous incarner sur notre planète, sortir de la constellation, aller ailleurs, aller dans un autre système solaire. Donc, je ne sais pas, je pense que par moment, je sais pas, une âme, elle peut attendre plusieurs siècles sur un plan subtil où ça ne va pas trop mal, même s'il y a des entités négatives qui contrôlent toujours le système. Hein. Et puis, au bout d'un moment, elle y retourne parce qu'elle voit que c'est peut-être le moment ou qu'elle veut. Voilà, mais après, voilà. En fait, je pense que tout dépend de votre mission d'âme et de la lumière que vous dégagez. En fait, plus vous dégagez de lumière, plus vous aurez des emmerdes, même sur les plans subtils. Autrement dit, ils vous feront signer n'importe quel contrat énergétique pour vous limiter, peut-être qu'ils vous forceront à vous incarner dans un mauvais corps. Quoi qu'il en soit, il y a toujours le concept de quarantaine qui est là. La quarantaine, en fait, c'est ce que les humains doivent exiger. Si on veut être libre, les humains devraient crier partout, on veut l'abolition de la quarantaine, on veut que la quarantaine planétaire soit levée. Si vous réclamez ça, tout s'effondre. Vous n'avez même pas besoin de parler de galactique ni de pédocriminalité, non. C'est demander à ce que la quarantaine soit levée, que ça soit fini.
On a un petit document à ce propos, d'ailleurs, Gwenaëlle, il faudrait qu'on le ressorte. On en parlait tout récemment, justement, réunion de la sororité, pour pouvoir crier haut et fort nos revendications, justement. Je ne sais pas si tu es avec nous, Gwen.
Oui, tu peux répéter, je n'ai pas entendu, excuse-moi.
Non, mais je dis par rapport au fait de réclamer justement la fin de la quarantaine. Je disais, tu m'avais mis sous le nez là, quand on s'est vu récemment, un petit document là, qui permettait justement de demander et de réclamer haut et fort la fin de la quarantaine et l'accélération de l'événement. On a un document, voilà, on peut partager.
Oui, c'est le décret pour demander l'accélération de l'événement, en fait. Mais c'est vrai que ça serait bien, je sais que Hervé, là, je te l'ai transféré, et du coup, il va vous le partager, quitte peut-être à faire une méditation ou suite ou quelque chose avec ça. Mais du coup, voilà, je pense que tu pourrais peut-être voir pour faire un article ou quoi, en tout cas pour rappeler chacun avoir ce décret. Moi, je me demandais même peut-être de le faire ensemble, de l'écrire à la main et pourquoi pas toujours avoir ce document en fait sur soi, en signature énergétique, quoi.
Ouais, tout à fait, un peu comme les exercices qu'on fait justement sur la dissolution des implants. Ouais, faudrait, je vais réfléchir à ça. Et Lina, je te donne la parole et excuse-moi. Et juste avant de te donner la parole, je voulais rappeler une chose, c'est que on a le Codex Galactique. Vous avez la possibilité de signer le Codex Galactique et de le découvrir, hein, parce qu'avant de le signer, il faut le découvrir. Donc on a fait un live vous l'avez sur la chaîne Hervé Gaïa, mais on en parle aussi sur différents sites, dont le site Révolution Vibratoire. Et les Chambres Atakion proposent justement de collecter vos signatures pour les apposer au Codex Galactique et ces signatures et ce codex sont placés dans les chambres Atakion justement lors des grands événements cosmiques ou des grandes méditations. Donc c'est aussi une façon de demander la fin de la quarantaine. Voilà, c'était la parenthèse que je voulais faire.
Oui, bien sûr. Et puis c'est vrai que nous, on les propose pas que sur les grandes méditations mondiales. C'est arrivé là sur les méditations avec les otages à des moments clés quand il y a eu des appels. Voilà, on les présente à tous les moments forts où l'on trouve que c'est important de présenter tous ces documents, toutes ces signatures en fait. Et c'est vraiment un cri, un appel en tout cas que l'on peut faire, quoi.
Allez, à toi Lina.
Oui, d'accord, merci. Bonsoir. Moi, je me pose beaucoup de questions. Je suis un peu comme à la maternelle avec vous, je crois bien, là. Moi, j'ai vécu quelque chose d'assez extraordinaire. J'ai vécu un accident tragique. J'ai vécu mort et renaissance, si on veut. Puis à l'accident, j'ai complètement déconnecté. J'ai perdu à l'entité de mon père. Il était là avec moi. Puis au réveil, là, ils m'ont tenu au coma pas mal. Mais au réveil du coma, j'ai c'est pas au réveil du coma, je pense que c'est à l'accident, mais j'ai plus de notion de temps, vraiment plus de notion de temps depuis l'accident. Et puis, j'ai comme tout revécu les événements de mon passé, un à un, en réel. Et puis, je disais, ah, merci, papa, je comprends maintenant, tu sais. Puis là, lorsque j'ai senti que j'avais terminé, je sentais une présence plus forte. Pour ne pas nommer, je ne sais pas. Et puis, j'ai demandé deux fois comment vous remercier. Et puis, je n'ai pas eu de réponse. Et puis, et là, j'ai senti un amour incroyable entrer en moi, dans toutes les cellules de mon corps. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. C'est immense. Et je l'ai senti physiquement, cet amour-là, pendant 5 mois, jusqu'à une opération. Et je l'ai toujours en moi, cet amour-là, mais elle est à l'intérieur là, maintenant, mais je ne la sens plus physiquement. Là. Je me touchais et je la sentais. Et je touchais aux arbres et je sentais l'énergie à travers les arbres. C'était incroyable. Je voudrais comprendre ce qui m'est arrivé. Je ne comprends pas.
Ça ressemble quand même terriblement à l'expérience justement que nous a raconté Romain. Je ne sais pas si vous étiez là depuis le début.
Oui, j'ai entendu un peu, oui.
Romain, tu souhaiterais réagir?
Après, bon, je ne sais pas si c'est effectivement une âme jumelle, je ne pense pas, mais ça se trouve, c'est un être de lumière qui peut-être vous a sauvé ou qui était là pour vous aider à un certain moment. Effectivement, l'amour inconditionnel, c'est vraiment En fait, l'amour inconditionnel, ce n'est pas une énergie qui peut être modifiée. Autrement dit, il n'y a pas d'entités négatives qui peuvent recréer ça. C'est pour ça que souvent, quand les gens me disent, mais alors comment, moi qui canalise, qui j'arrive à communiquer avec les autres, comment savoir s'ils sont vraiment de la lumière? Ben, c'est très simple, vous leur demandez de vous envoyer de l'amour. S'ils y arrivent, ce sont des êtres de lumière, s'ils n'y arrivent pas, ce sont des imposteurs du bas astral. Reptilien, archonte, draco, enfin, que des mères du bas astral qui n'ont rien à faire là. Mais effectivement, l'amour inconditionnel, généralement, est-ce que c'était un ange? Est-ce que c'était peut-être un être ascensionné qui était là peut-être pour vous aider, pour vous envoyer un flash de lumière, pour vous montrer que vous n'étiez pas seul dans cette situation, que c'est possible?
C'est ça, c'est ce que je... Cet amour-là, tu sais, j'ai complètement... Moi, j'arrête pas de dire j'ai vécu une mort et une renaissance parce que je suis plus la même personne du tout. Je vois plus la vie de la même façon. J'ai eu des visions. J'étais en ville, je faisais que travailler dans ma vie. Depuis 18 ans que je travaillais, depuis l'âge de 18 ans que je travaillais pratiquement tout le temps, tout le temps. Là. Et puis là, j'ai eu des visions. J'ai dit non, c'est terminé pour moi la ville. Je m'en vais à la campagne. J'avais acheté un terrain en 2017 pour mon fils et en fin de compte, il ne voulait plus. Fait que là, j'ai dit, je vais m'en aller là. Puis là, je suis en train de suivre une formation pour avoir des serres intégrées, passives, des panneaux solaires. Je veux complètement déconnecter du système et avoir des poules. Et j'ai un lac à 3 km là, rempli de poissons. Donc, tu sais, je veux m'auto-suffire. Fait que tu sais, je ne sais pas... Puis j'étais découragée. Hein. J'étais découragée et j'ai été triste à un moment donné parce que j'ai dit, où est-ce qu'ils sont les gens? Ils ne sont plus là. Ils sont tellement prisonniers dans leur mental. C'est épouvantable. La communication ne fonctionne pas. Elle est tellement déficiente. C'est le mental qui répond à leur place. Mais après ça, j'ai tassé ça. J'ai dit, fais tes choses, ma belle, puis tout va bien aller, tu sais. Sauf que, tu sais, en quelque part, je me suis isolée, là. Ça va faire 2 ans, l'accident. Je me suis complètement isolée. Je suis encore isolée. Mais là, j'ai comme le besoin de retrouver du social, des gens. J'ai tout tassé sainement, là, toujours sainement, mais tous les amis qui étaient autour de moi, j'en avais plein. J'ai tout tassé ça parce qu'ils sont pas là, là. Tu sais, je veux dire, il y a aucune compréhension, là. Fait que c'est pas facile à vivre, ça. Ces étapes-là sont pas faciles parce qu'en fin de compte, je me disais, je vais finir ma vie seule. Parce que je vois pas personne qui respire ça, qui tu sais. Puis souvent, je dis aux gens, on a tout en nous, tu sais. Ils arrêtent, tu sais, souvent, je les entends critiquer par rapport aux choses. Non, on a tout en nous, on a tellement tout, il n'y a rien qu'on ne peut pas faire, on a tout, tu sais, même se guérir, on a tellement tout, mais j'ai l'impression que les gens, ils ne comprennent pas, tu sais, fait que c'est pas facile à vivre. Fait que je voulais comprendre pour qu'est-ce que j'avais vécu, là, carrément drastiquement, là.
Moi, je pense en fait que l'amour inconditionnel, ça vous a transformé, ça sent la manière dont vous parlez, ça, en fait, ça a changé presque votre paradigme, je dirais presque, c'est une transformation spirituelle. C'est comme si ça vous avait un peu recentré aussi. Le fait de vous isoler, de retrouver ce qui correspond peut-être plus à votre âme, de quitter la ville, de vous retrouver avec vous-même. Peut-être c'est une reconnexion qui s'opère. Moi, c'est comme ça, en tant que je le sens. Après, je peux pas parler à votre place, mais...
Ouais, OK, ça marche. Tu sais, je me connectais à mon âme. Hein. Je me connectais, je me disais... Parce que là, j'ai dû... J'avais acheté une maison juste avant l'accident qui était complètement rénovée, parce que ça, c'était ma passion, rénover les maisons et travailler là-dedans. Puis là, quand j'avais engagé quelqu'un, puis il m'avait dit, tu ne trouveras pas personne, là, il n'y a plus personne là, qui peut faire ça et ça. Je disais, non, attends un petit peu, on va voir, tu sais. Puis là, on dirait que je rentrais comme dans une petite transe, je ne sais pas comment appeler ça. Et là, j'avais ma réponse, je disais, ah, OK, je vais faire ça, puis... Oups, j'avais la personne, je trouvais tout ce que j'avais besoin, je l'avais. J'avais seulement qu'à demander. En tout cas, c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu, là, tu sais, mais je n'ai jamais pris conscience de ça avant. Probablement qu'avant, je prenais conscience parce que Je veux dire, je prenais un peu conscience de tout ça parce que je réussissais bien dans la vie. Tu sais, j'étais dans la vente, j'étais dans quelque chose de pas facile, puis j'atteignais toujours et au-dessus tout le temps. Là, tu sais. Mais c'est ça. Fait que je voulais comprendre un peu ce que j'avais vécu parce que c'est comme personne ne le reconnaît. Ouais.
Merci, Lina. Merci. Donc, tu es du Québec?
Oui, du Québec, oui.
Oui. Là, tu n'es pas seule. Hein. Tu as trouvé une communauté, là. Tu vois, tu ne devrais plus te sentir seule. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui pensent comme toi ici et sur le groupe.
Oui, mais c'est ça. Ouais. C'est pour ça que je suis dans plusieurs. Je suis dans plusieurs groupes, là, justement, pour essayer de. Puis dans les communautés aussi, parce que les gens, je vois qu'il y a plus d'éveil, là, les gens veulent sortir des villes, puis ils disent bon, j'ai pas d'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais tu sais, ça, c'est. On trouve tout, là, ce qu'on a besoin. On a juste à. Il y a des communautés, il y a tout ça, là, il y a plein de choses là, présentement qui opèrent dans ce sens-là là, pour justement. Prendre soin de la nature aussi, c'est super important. Hein. J'ai des contacts, j'ai un chat maintenant et c'est incroyable là, tout ce qui se passe dans ma vie. Ouais.
Ouais. En tout cas, toi, tu as su te reconnecter à l'abondance universelle. Hein. C'est ce que je sens et je sais qu'il y a des personnes qui ont cette faculté-là. Une fois qu'ils ont vécu une espèce de reconnexion et après, il suffit de demander, comme on dit, demander à l'univers et pour que la chose vienne sur un plateau, comme tu nous expliquais tout à l'heure.
Oui, c'est ça. Oui, exactement. Oui. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup.
Mais je t'en prie. Alors, j'ai justement là, il y a des commentaires là sur par rapport à la matrice. Donc, Amy Free nous dit pour rien au monde, je souhaite vivre encore ça. Hâte de voir toute la vérité au grand jour. Et Alexandre également, donc un autre Alexandre qui dit honnêtement. Voilà, il se pose la question comment il a pu donner son aval pour rejoindre ce monde de matière. Alors moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que grossièrement, en fait, il y a deux types de personnes hein, dans la matrice, dans la quarantaine que nous vivons. Il y a les personnes qui l'ont subi malgré elles, qui n'ont jamais demandé à venir ici, mais qui ont été faites prisonnières à un moment ou à un autre de leur existence ou de leur pérégrination dans l'univers. Et puis, il y a ceux qui sont venus intentionnellement, comme Romain, justement, pour pouvoir aider, pour pouvoir ancrer la lumière et participer à cette libération. Mais je pense que même parmi ceux qui sont venus intentionnellement, on se pose encore la question, mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère? Voilà. Et ça nous reconnecte justement à cette problématique du zéro versus héros dont on parlait tout à l'heure. Mais effectivement, je pense que quand on est venu là, même avec la sensation, le sentiment d'aider, je ne suis pas sûr qu'on avait pris la mesure de la difficulté, en fait. Et je ne sais pas d'ailleurs, Romain, ce que tu en penses. Qu'en disent les Galactiques sur ce sujet-là, puisque toi, tu as discuté avec eux il n'y a pas si longtemps que ça. 27 ans, finalement, c'est il y a peu de temps. Mais je pense qu'on n'a vraiment pas pris la mesure de la complexité de cette matrice.
Mais je crois, en fait, que Cobra le dit lui-même. Hein. Je pense que les Galactiques eux-mêmes ne mesuraient pas l'ampleur gravissime que cette prise d'otage a pu prendre au cours des siècles et des millénaires. Moi, c'est vrai qu'avec du recul, pendant très longtemps et même encore aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, mais quelle bourde j'ai pu faire en m'incarnant ici, c'est horrible. J'ai du mal à m'y retrouver, quoi. C'est très, très, très complexe. C'est une vraie question, c'est vrai. Est-ce qu'il y a 27 ans, est-ce que là où j'étais, ils en avaient conscience? Je pense en fait qu'ils ne sont pas... Ils ne sont pas totalement conscients de l'ampleur de la souffrance de la population de surface. Ils n'arrivent pas à concevoir qu'est-ce que c'est être réellement enfermé dans la matrice avec les implants, avec les entités, avec toute cette lourdeur, avec cette déconnexion, cette amnésie. Je pense qu'ils ne mesurent pas. Mais je pense qu'ils mesurent réellement les enjeux qui s'opèrent ici, vu qu'on répare on est là vraiment pour effacer l'obscurité carrément. C'est la dernière planète qui est prise par les ténèbres. Donc, quelque part, je me dis que si mon âme a voulu faire ça, c'est que. Même si c'est horrible à dire, évidemment, on a souffert terriblement, mais l'enjeu vaut vraiment le coup, quoi. L'enjeu vaut vraiment le coup. Je pense qu'il y a des âmes qui sont parties comme moi parce que on s'est dit, mais ça je l'ai su dernièrement, on s'est dit, voilà, c'est la dernière des, il faut y aller, on n'a pas le choix. Peut-être que moi, ça a pesé aussi dans ma décision de partir et de m'incarner en me disant, mais Il y a mes frères et sœurs qui y sont depuis des millénaires. Ça y est, maintenant, on sait qu'on va gagner vu qu'on arrive à la fin du cycle cosmique, que ça va pouvoir s'aligner avec l'ascension, qu'on a une fenêtre pour l'événement. Il faut y aller. Il faut y aller, c'est maintenant. C'est maintenant. Et je pense qu'il y a beaucoup de races qui veulent nettoyer ça parce que cette planète-là, c'est très compliqué. C'est un peu une tumeur cancéreuse à l'échelle de la galaxie. Donc, ils veulent vraiment se débarrasser de l'obscurité et que tout ça soit nettoyé et qu'il n'y ait plus aucune prise d'otage, plus aucune oppression, que la lumière vraiment soit partout. Partout, qu'il n'y ait plus de zone sombre.
À l'échelle de l'univers même. Je pense que c'est une cellule cancéreuse à l'échelle de l'univers.
Exactement.
Les enjeux sont considérables, en fait. Ils vont bien au-delà de notre système solaire, bien au-delà de notre galaxie. Je pense que l'enjeu est… Voilà. Enfin. Ouais. Mais alors, ça fait déjà plus de 2 heures qu'on est ensemble. Alors, c'est vrai que c'est vraiment passionnant, Romain. Je vais prendre encore une ou deux questions.
Je voudrais dire quelque chose pour Romain.
Vas-y.
Oui, je suis désolé de prendre la parole. Je voulais juste poser une toute petite question à Romain. Qu'est-ce qu'il sait sur les indigos, sur donc les vagues de volontaires qui sont descendues pour justement cet événement?
Alors, je n'ai pas d'informations spécifiques sur les indigos. Je sais que ce sont des noms qu'on donne en fait à différentes vagues de semences d'étoiles. Je pense en fait que ce sont des enfants qui ont des caractéristiques voilà, particulières. En fait, ça correspond ou soit à une race cosmique particulière, ou soit à une dimension particulière. Voilà, c'est pour ça peut-être qu'ils sont arrivés à ce moment-là, enfin, avec des capacités ou une mission particulière qu'on ignore encore, et ce qui fait qu'ils sont spécifiques et qu'on les appelle les indigos. Voilà. Et après, je me méfie un peu de ces noms, parce que, voilà, en fait, de donner des étiquettes, après, ça enferme aussi, et voilà.
Alors, il y a un livre dont on parle beaucoup dans la communauté spirituelle qui s'appelle « Les trois vagues de volontaires », le livre de
Dolores Cannon.
Voilà. Et alors, moi, je pense que dans ce livre, il y a des choses intéressantes, mais je pense qu'il nous donne une idée fausse du plan de sauvetage de la planète, parce qu'il y a vraiment… moi, j'en suis intimement convaincu et je pense en faire partie. C'est pas juste trois vagues finales qui sont venues pour sauver la planète. Il y a des gens qui sont là depuis le début de la quarantaine, des êtres depuis le début de la quarantaine qui ont fait des centaines d'incarnations. Donc voilà. Bon, moi j'ai essayé de le lire, le livre de Dolores. Je suis pas arrivé au bout parce que il m'ennuyait honnêtement. Et puis il y avait des choses qui me parlaient pas. Il y a des choses vraies sans aucun doute. Il y a des choses intéressantes. Mais pour moi, il n'est pas. Voilà, il y a de la dissonance. Il y a un peu de dissonance quand même.
Moi, je voudrais rajouter quelque chose aussi par rapport à ce livre. Il ne faut pas s'arrêter sur un seul livre. J'ai lu une dizaine de livres de Dolores Cannon. Donc, il y a beaucoup de livres qui ont été traduits en français. Et j'ai même écouté des conférences des personnes qui ont traduit ces livres. Donc, c'est vrai qu'en ayant lu une dizaine de livres de sa part, je me suis fait une idée vraiment très très pointue de ce que c'est que des volontaires. C'est-à-dire que les volontaires, depuis les années 50, sont descendus sur Terre, et juste même maintenant, il y en a encore maintenant. Il y a beaucoup de vagues de volontaires, il n'y en a pas que trois. Mais c'est vrai que ce livre, ça a été fait dans les années 90, et il faut lire tous les autres livres qu'elle a écrits par rapport à ça quand même. Pour se faire une idée beaucoup plus complexe. C'est vrai que seul ce livre ne suffit pas, pour moi.
En fait, Romain, justement, serait un de ces volontaires, en l'occurrence, dont on parle.
Ah, tout à fait. Et moi, c'est pour ça que ça m'interpelle. Tout ce qu'il a dit, je l'ai très, très bien compris. Je le vis aussi. J'ai eu une vie aussi assez troublante et troublée à ce niveau-là. Et j'ai compris que maintenant... à quoi je pouvais servir et qu'est-ce que je devais faire. Et j'attends l'événement, je vis tous les jours, je regarde ce qui se passe et je suis prêt comme un soldat à attendre l'événement pour faire quelque chose, quoi, en fait. Mais avant, je ne savais pas, j'étais inconscient, je savais inconsciemment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne savais pas du tout ce que c'était, et maintenant, là, ça y est, j'ai compris. C'est vrai que je suis venu sur Terre, j'ai déjà été incarné plusieurs fois, je fais partie d'une famille pléiadienne, et je suis revenu pour faire quelque chose, quoi. Ça, c'est, pour moi, c'est clair. Donc, ce que dit Romain résonne bien en moi.
Donc rassure-moi, tu n'attends pas, tu agis. Un soldat sur un champ de bataille, il n'attend pas, il agit.
Oui, pardon, j'agis. Mais ce que j'attends, c'est le dénouement, la fin de la quarantaine, je voulais dire.
Non, mais justement, il y a pas mal de... Il y a pas mal d'échanges là en même temps sur le groupe. Il y en a qui nous disent ouais, il va se passer quelque chose de grand cette année. Je pense qu'on est, bien sûr qu'on peut utiliser ce terme d'attendre, même si l'attente n'est pas la meilleure attitude. Mais bien sûr qu'on est tous à attendre quelque chose de grand cette année. Et voilà. T'en penses quoi, Romain? Tu penses qu'on va vivre quelque chose de grand cette année?
Moi, je ne dirais aucune date, ni aucun mois, ni aucune année. Je pense que en fait, on ne peut pas savoir quand est-ce que ça va arriver. Le sentiment que j'ai et que je partageais un peu dernièrement avec Fabienne et Dolores, c'est qu'effectivement, on avance toujours de manière contrastée, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui avancent, des choses même magistrales, hein, qu'on voyait qu'il y a de plus en plus de moins en moins d'anti-négatifs dans les dimensions subtiles, donc de plus en plus de lumière qui passe à travers le voile, c'est extraordinaire. Mais effectivement, l'ombre a toujours une carte à tourner et que voilà, ça ralentit, il y a encore les bases souterraines, il y a encore tout ça. Je ne dirai aucune date. Ce que je ressens, mon ressenti, c'est que même si les choses sont toujours lentes, ça peut très vite déraper pour la lumière. C'est-à-dire que je sens que l'événement, non seulement on se rapproche vraiment, mais que ça peut très vite basculer. Voilà. Après, je ne dirais pas, est-ce que c'est cette année, est-ce que ça sera l'année prochaine, est-ce que je n'en sais rien, mais on sent quand même qu'on se rapproche. Et quelque chose me dit dans mes ressentis, c'est que aussi, on sent que ça peut basculer à tout moment et que ce qu'on vit en ce moment est tellement intense que ça ne va pas durer non plus éternellement. Donc, on approche quand même du dénouement, ça c'est clair.
Ouais, donc tu parles d'une bascule, possible dans la lumière, en faveur de la lumière, ouais, tout à fait, ouais.
Exactement. Après, est-ce qu'il y aura une option Delta? Ça, on ne sait pas. Cobra a parlé peut-être au mois de juin d'une divulgation partielle, mais on n'en sait rien. On ne sait pas.
Alors, avant que je termine l'enregistrement, c'est incroyable. On est 75 personnes, c'est formidable. Je pense que ça a vraiment été passionnant, tout ce que tu nous as raconté, Romain. C'était vraiment passionnant et je pense que ça a beaucoup parlé aux gens, ce qui fait qu'on est encore 75 personnes. Là, après 2h15 de discussion, je veux bien prendre encore une ou deux dernières questions avant d'arrêter l'enregistrement. Si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas soit à lever la main, soit à activer votre micro pour ceux qui ont le micro gris. Oui. Pierre.
Oui, tu m'entends pas?
Oui, c'est bon. Ah, tu es à nouveau en muet. Tu es repassé en muet.
Est-ce que là, c'est ouvert?
Oui, c'est bon. Vas-y, Pierre.
Oui, c'est bon. Vas-y, Pierre. Bon, je touche à rien parce que j'ai visiblement bugué sur le micro là, donc je sais pas quand il est ouvert ou pas. J'ai une question pour Romain. Dans mon entourage, pas mal de gens qui pensent que certains galactiques seraient plutôt du côté de l'ombre que de la lumière. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus?
C'est-à-dire, tu peux approfondir ta question?
Il semblerait que des galactiques soient plutôt côté Draco, côté... côté certaines espèces qui sont pas forcément très gentilles. Parce qu'on parle toujours des galactiques comme étant des êtres plutôt sympas, dans la lumière, et là pour aider les gens, enfin pour nous aider. Mais il semblerait qu'il y ait certains galactiques qui éviraient pas du bon côté. Est-ce que tu confirmes cette information ou pas?
Moi, en tout cas, ça ne résonne pas avec moi. Après, je peux me tromper, mais ça ne résonne pas avec moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les races négatives qu'on connaît, hein, l'obscurité, quoi, que ce soit reptilien, draco ou chiméra, ils sont poursuivis de partout. C'est une mafia galactique criminelle. Donc, je pense qu'à l'extérieur de cette planète-là, il n'y a aucun galactique positif qui pencherait du côté de l'ombre. Ils veulent les détruire. Au pire, je pense, dans la galaxie ou dans l'univers, vous pouvez tomber sur peut-être des galactiques qui seraient... pas négatifs, mais qui en fait ne veulent pas discuter avec vous. Ça arrive en fait, l'univers est à l'image du monde, tout le monde ne s'aime pas forcément, mais il n'y a pas d'obscurité, il n'y a pas d'oppression, il n'y a plus de guerre en tout cas. Mais effectivement, les races négatives qui se trouvent dans notre monde actuellement, elles sont poursuivies de partout et elles sont soutenues par personne, par personne. Il faut savoir que les Pléiadiens, ils veulent leur faire leur peau. C'est une guerre terrible. Nous, on n'imagine pas, on est coincé sur cette planète-là, on n'imagine pas qu'effectivement, toutes ces races négatives sont pourchassées. Pourchassées.
D'accord. Donc, si je te suis, les galactiques qu'on peut être identifiées comme étant dans l'ombre ne sont pas des galactiques, mais sont plutôt une autre race qui a pu prendre l'apparence d'un galactique.
Oui, ou c'est simplement de la désinformation pour faire croire qu'il y a des Pléiadiens positifs, des Pléiadiens négatifs, c'est fou. Enfin, moi, je pense que tout ça, c'est de la désinformation, ça rime pas à grand-chose.
Ouais, on est confronté quand même d'un point de vue énergétique à certaines choses.
Et justement, c'est pour vous faire douter, c'est pour vous mettre dans des basses vibrations, c'est pour ne plus être sûr. C'est écoutez votre cœur, connectez-vous à votre âme, à votre soi supérieur et vous saurez. De toute façon, ouais. C'est simple, les êtres ascensionnés, quelle que soit la race, quand tu arrives en cinquième dimension, il n'y a plus de risque de mal ni d'obscurité possible. Donc, si tu veux, c'est impossible qu'ils soient du côté... négatif, c'est impossible. Et puis vu le nombre de guerres qu'il y a eu avant, mais tu n'imagines pas.
La question était par rapport, c'est parce que ça crée une dissension de discussion avec des amis qui sont aussi dans des soins énergétiques et qui quand ils entendent le mot galactique ont plutôt tendance à fuir plutôt que. Et moi, je suis pas dans cette littérature-là. Enfin, pour moi, les galactiques, c'est plutôt bien, c'est pas forcément des mauvais, quoi. Donc, j'ai été un peu étonné de leur part d'entendre que certains galactiques étaient galactiques reptiliens ou galactiques. Donc, c'est pour ça que la question, je me suis permis de te la poser. Voilà, là-dessus.
Juste pour résumer, je dirais en fait que les galactiques négatifs, ils sont chez vous, ils sont sur la planète Terre. Et que tous les autres positifs, en fait, ils sont à l'extérieur. Après, dans la galaxie, tu peux toujours tomber sur une race qui restera indifférente. Mais il n'y aura pas de mal. Les gens peuvent, il y a des races qui sont indifférentes à ce qui se passe sur la planète. Je pense peut-être dans d'autres galaxies, ce n'est pas leur problème, ce n'est pas leurs emmerdes, si tu veux.
Non, non. Donc, on voit vraiment le mal. Hein. Là, on voit vraiment le mal avec des dissonances. Enfin, on voit le changement comportemental des gens qui est assez impressionnant.
Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent, même si c'est lent, mais ça se sent. Ouais.
Ouais. Donc, mais là, ils sont vraiment dans le noir. Hein. Ils sont vraiment dark. Hein.
Disons que ce qui se passe en ce moment, c'est que tout est tellement intense que finalement, la matrice vous teste. Elle teste votre consentement 24 heures sur 24 avec les vaccins. En fait, elle teste jusqu'où vous allez consentir, jusqu'à quel niveau d'horreur vous allez accepter. Et à partir de quand vous allez dire non. C'est le test que l'obscurité vous fait.
Ouais, ça c'est le problème de l'humain. Hein. On a quand même des. Enfin, moi, j'ai lu des témoignages de gens qui ont vécu les camps de concentration et en arrivant, malgré le fait qu'ils aient été maltraités, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai écouté avec attention quand même le début de l'émission où tu t'es présenté, parce qu'il y a quand même quelques similitudes parfois, indirectement. Mais bon, des gens qui ont subi quand même des choses, des maltraitances, des choses comme ça qui arrivaient dans les camps et qui disaient, qui étaient quand même convaincus que c'était pas possible, quoi. On pouvait pas tuer les gens comme ça. Il fallait vraiment qu'ils les voient rentrer dans un bâtiment et qu'ils les voient ressortir les pieds devant pour comprendre et vraiment admettre que l'horreur était là, quoi. Donc, l'humain particulièrement, moi, je vois la période d'aujourd'hui, on peut facilement la comparer à ces horreurs-là. Hein. On a dit plus jamais ça, plus jamais ça. Ouais, t'as raison. Ouais, on est en plein dedans, quoi. On est absolument en plein dedans actuellement. Donc,
tout le problème de la matrice, c'est qu'en fait, c'est un éternel recommencement.
Ah bah,
en fait, à chaque fois, c'est pour ça qu'on se dit, mais en fait, ça sonne faux. Moi, tu vois, en étudiant l'histoire au collège, au lycée, je me disais, mais c'est quand même bizarre. Ce monde n'est fait que de guerre. On prend jamais les leçons. Ça ne suffit jamais. Et en fait, c'est là où vous voyez en fait que tout est artificiel. En fait, nous sommes des pantins dans un théâtre, mais tout est artificiel. Les guerres sont créées parce qu'il y a de l'argent, ça crée de la dualité, ça crée de la nourriture énergétique pour les entités. Mais... Tout est fake. Cette matrice n'est qu'un éternel recommencement. C'est une machine à laver qui tourne 24 heures sur 24 en mode fermé.
Et tout est fait pour diviser et pour générer de la haine parce que c'est ce qui nourrit la matrice.
Et absolument, en fait, plus il y a de dualité, plus il y a d'énergie négative qui nourrissent les entités. C'est simple.
Oui, c'est ça. Mais c'est compliqué, hein, parce que faut, même pour nous, hein, même si nous, on essaye d'aller vers l'amour, d'envoyer de l'amour, on a quand même une espèce de colère à un moment donné qui explose. Et on sait qu'il ne faut pas, parce que ça va nourrir, mais en même temps, ça nous soulage de le faire. Donc, c'est
tout le problème. C'est justement parfois, au fait, ils font exprès de faire des traumas, des blessures émotionnelles pour que les gens, en fait, ils soient tentés de basculer dans l'ombre et qu'ils cèdent finalement à leurs émotions de basse énergie. C'est tout le problème.
Ouais, c'est ça.
C'est terrible. Ouais. C'est sûr, quand on est en colère, quand on est triste, quand on se dit, mon Dieu, en fait, on se sent impuissant par moment dans cette matrice. On se dit, mon Dieu, mais c'est terrible. Tout est lourd. On s'en sort pas. C'est affreux.
Oui, et puis impuissance rime avec colère, parce que dès qu'on est dans l'impuissance, on est dans la colère. Parce qu'on peut.
Je suis désolé, je vais devoir. Oui. Il faut que je mette un terme à l'enregistrement. Merci à vous deux, merci Pierre. Je souhaiterais donner peut-être la parole pour un mot de la fin à un ou plusieurs co-animateurs, et je mettrai fin à cet enregistrement et on passera en mode after. Est-ce que parmi les co-animateurs, vous souhaiteriez donner un mot de la fin ?
Restez centré.
Exactement. Ouais.
Ouais, tout à fait. Et alors moi, en attendant que les personnes se décident, et puis je te laisserai vraiment le mot de la fin à toi, Romain. Moi, j'ai vu passer effectivement un petit message là sur le chat. Le dernier Qatar. Vous savez, les cathares, hein, c'était des êtres de lumière, hein, qui étaient là pour ancrer la lumière et ancrer les mystères de la déesse, notamment. Le dernier cathare a disparu en 1321 et il y a une prophétie qui dit que 700 ans plus tard, les lauriers refleuriront. Et alors, si vous faites le calcul, c'est cette année. Donc voilà, pas de date. Hein, on est d'accord, hein, Romain, pas de date, mais peut-être que
pas
les
de date.
Lauriers vont refleurir cette année, peut-être. Tout dépend de votre engagement et de la façon dont, je dirais, vous prenez en main votre responsabilité justement dans cette fin de partie, puisqu'on a tous une responsabilité justement. Donc voilà, moi en tout cas, c'est mon mot de la fin.
Moi, je dirais pour terminer, effectivement, on n'a jamais été aussi proche. À la fois la libération de la planète Terre, à la fois la libération de la galaxie, à la fois la libération du cosmos, et surtout de rayer de la carte l'obscurité. Donc il n'y aura plus de guerre, même à l'échelle galactique, il n'y aura plus rien. Et surtout, si jamais ça peut rassurer des gens, en tout cas moi c'est mon ressenti, et ça confirme aussi ce que Cobra dit dans ses posts, le processus que l'on vit actuellement d'éveil, de lumière qui s'installe, il est irréversible. C'était le plan dès le départ de la Confédération, c'est-à-dire d'aligner l'événement avec des cycles cosmiques. Les obscurs qui vous ont enfermé dans cette quarantaine, ils ne peuvent rien contre les énergies galactiques. Ils ne peuvent rien, ils ne peuvent rien contre la source. Ils ne peuvent rien contre ces énergies qui vont partir du soleil central galactique et qui vont arriver sur votre planète et qui vont détruire la quarantaine, qui vont percer le voile, qui vont vous révéler. Donc ça, si ça peut vous rassurer, même si on se... Comment on est un peu perdu, on est impuissant, on ne sait pas où on va, on ne sait pas quand l'événement va arriver. Il faut savoir que le processus que l'on vit actuellement, il est irréversible. Il n'y a pas de retour en arrière. On sera libéré. Point.
Ça fait du bien de t'entendre. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Romain. Et ce sera le mot de la fin. Je mets un terme à l'enregistrement. Et merci encore d'être resté avec nous jusqu'à présent, puisque ça fait 2h25 que nous sommes ensemble. Donc, restez avec nous si vous souhaitez participer à l'after. Et voilà, et on vous donne rendez-vous lundi prochain. On ne sait pas encore quel thème sera traité lundi prochain. C'est mystère. Même pour nous, c'est encore un mystère. Merci à tous. Merci infiniment, Romain. C'était vraiment super. Je pense que t'as vraiment éclairé beaucoup de personnes ce soir. J'en suis intimement convaincu. Et voilà.
J'en suis ravi et aussi ça me fait chaud au cœur parce que je sais que le fait de partager nos vécus, même par nos paroles, on met des énergies dedans. Donc du coup, on partage de la lumière. Même ce qu'on fait ce soir, le salon vocal de ce soir, c'est de la lumière. On se reconnecte les uns les autres et ça nous éveille mutuellement. Donc on est plus fort.
Exactement. Et c'est aussi l'objectif de ces salons vocaux. Absolument. Merci à tous. Bonne soirée et restez avec nous pour l'after si vous le souhaitez.